Gameblogueuse, Gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction. Encore une fois, une actualité supra chargée cette semaine. Et encore une fois, cette semaine, on retrouve Julo.
Salut.
Camille.
Salut.
Et Romain.
Bonsoir.
Avec qui nous allons commenter eh bien, tout ce qui s'est passé.
C'est que
la
le podcast
semaine
est publié vers midi et demi en général. Ah non, pas le vendredi, cela dit.
Oui.
On peut dire bonsoir. Bonsoir.
Ouais, on peut dire bon, mais de toute façon, c'est le soir en permanence, hein, avec le temps qu'on a à Paris.
C'est vrai.
Bon, ça se trouve, il va faire beau quand vous écouterez.
Absolument.
Bon, bref, nous allons commenter l'actualité de la semaine passée tous ensemble. Il y aura trois grands thèmes cette semaine. D'abord, Quake Champions, que Camille a eu l'occasion de voir, de tester même dans
c'est
sa bêta fermée. Est-ce que ce FPS est à la hauteur de la légende Quake? Il nous dira tout ça tout à l'heure.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un FPS sur PC, donc c'est...
Oui, c'est vrai. Des FPS free-to-play sur PC, c'est de plus en plus rare. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Alors là, des trucs en coop ou en compétition.
Oui, 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 oui,
ah, moi, j'en vois plus du tout. Hein.
Non, mais là, vraiment, ça... Moi, ça va, j'étais surtout inquiet vis-à-vis des jeux de stratégie. Je trouvais qu'il n'y en avait plus beaucoup qui sortaient sur PC ces derniers temps. Camille nous a rassuré la semaine dernière, donc là ça va.
Oui, c'est vrai, avec Dawn of War 3, donc vous pouvez toujours les...
Donc là on troll le PC, hein, c'est ça. Donc, on fout le sommaire en l'air et tout ça. Okay.
Exactement, on troll le PC. Ensuite on va parler, on va revenir un petit peu sur Call of Duty World War 2, puisque eh bien, il y a quelques nouvelles qui sont tombées, quelques indications qui ont été données par les développeurs et aussi eh bien, un début de polémique avec YouTube dont on vous parlera tout à l'heure. Avant de finir avec toujours du PC, incroyable.
Mais là, il y a un truc.
Il y a un truc. Là, tu fais comme si tu l'attrapais, alors que tu sais très bien que c'est du cloud gaming. Tu peux pas l'attraper, Julo. Et oui.
C'est pas du cloud gaming.
Bon, c'est presque. Bon, c'est pas loin.
C'est du cloud PCing.
Ouais. C'est du cloud hardwareing.
Bon, c'est du cloud François ou du.
Ah ouais, voilà, c'est du cloud François.
Du cloud Makelele. Vous pouvez faire ça avec tout. Hervé Cloud aussi. Enfin bref. Bref, on parlera du Shadow. Vous savez, ce PC connecté qui coûte moins cher et que vous pouvez avoir par abonnement.
Le Shadow Blade.
Shadow Blade, pardon. Oui, mais c'est le mot Blade. Moi, j'ai du mal à dire le mot Blade. Je sais pas pourquoi.
Je vois des vampires partout. Quand
Non, mais non, moi je pense au Blade, quoi, tout bêtement. Mais c'est une autre
histoire. Ouais, Shadow Blade.
Ouais, tu vois, l'ombre du Blade.
Bon,
ok. Bref. Et nous finirons
ça
évidemment avec
fort, hein, vous allez
les
voir,
podcasts
là,
de l'ombre.
Ça va être quelque chose cette semaine.
Avec les tests de la semaine et le reste de l'actu. Mais on va commencer comme chaque semaine avec le win et le fail. Le win, Romain, c'est pour toi.
Non.
Ça concerne.
Non, j'ai pas envie. Non.
Ok,
non,
bah c'est pas
pour
cette
toi. Semaine.
On va parler. Du coup, on va parler de quoi pour le win, Julo? Parce que
non,
là,
non,
si Romain Ibou de
la Juve.
Ah bah oui, c'est vrai, mais c'est pas fini. C'est pas fini.
Oui, c'est vrai.
Et quand le podcast
et je suis bien placé pour le dire.
Et c'est pas fini. Ouais, c'est vrai qu'il
y a, il y a un deuxième match.
Non, mais après, comme le podcast est diffusé le lendemain du deuxième match,
ah bon, donc
pour les non-premium, moi je préfère pas me lancer.
On ferme nos bouches.
Même si je pense...
Finalement, Romain, tu vas le faire le
même si je pense que je vais à la Cardiff, mais je ne sais pas encore. Bref, oui.
Cher français, j'ai changé.
Oui.
Donc le win de cette semaine, c'est Mario Kart 8 Deluxe. Ça surprendra pas forcément vu que vu la popularité de la licence Mario Kart, mais il est dans la droite lignée du carton actuel de la Switch au sens où bah il bat des records les uns après les autres lui aussi d'emblée. Dès lundi dernier, Nintendo américain a envoyé un petit communiqué de presse pour dire que Mario Kart 8 Deluxe aux States uniquement avait fait le meilleur premier jour de l'histoire de la série Mario Kart.
C'est-à-dire meilleur que le premier jour de Mario Kart Wii, qui était la référence.
Ça fait 459 000 exemplaires vendus le seul 28 avril dernier.
Ah donc ouais
voilà.
Ah quand même.
Aux États-Unis. On n'a pas le chiffre pour le reste du week-end, mais ce qu'on sait, c'est que d'après les statistiques de vente de jeux mondiales du mois d'avril, Mario Kart 8 Deluxe fait partie des million sellers. Ce qui fait qu'entre le 28 et le 30, ils ont vendu plus d'un million de Mario Kart 8 à travers le monde. D'après Famitsu, au Japon, ils en ont vendu 280 000 au cours du premier week-end, c'est-à-dire le vendredi, samedi, dimanche. Et donc 459 000 aux États-Unis rien que le 28. Donc gros démarrage pour Mario Kart 8 Deluxe. J'ai essayé d'avoir des infos concernant les ventes françaises pour avoir
mais ça en France on communique
Nintendo
pas.
Nintendo n'a rien voulu me dire, juste que ça se passe très bien.
Ouais, et en Grande-Bretagne, ou plutôt au Royaume-Uni, pardon, numéro 1 dès son arrivée le week-end dernier. Bref, gros
là,
carton pour Mario Kart 8.
On se rend pas compte du nombre de personnes qui en fait découvrent totalement.
Qui avait pas de Wii U, quoi.
Oui, voilà, qui découvre totalement Mario Kart 8 avec cette version de luxe. Donc, c'est un jeu qui arrive conséquent d'emblée, quoi.
Bah, faut dire aussi, c'est peut-être le meilleur Mario Kart qui ait jamais été fait
de l'histoire de l'humanité.
C'est fort probable.
D'ailleurs, c'est ce qu'on a titré, je crois, hein, un truc comme ça.
À peu près, ouais.
Voilà, pas le titre, mais c'est dans le test.
Il a eu son petit 10 sur 10 par Thomas qui l'a encensé. Je crois que c'est assez mérité. En tout cas, on y passe beaucoup de temps. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, tous les soirs, Poufy, qui est aussi organisateur de soirées de temps en temps.
DJ Poufy,
absolument. Vous a concocté un petit tournoi de 20h à 22h chaque jour. Il y a le Gameblog. La Gameblog Cup, pardon. Je vais encore dire club, je sais pas pourquoi. Et donc, n'hésitez pas à vous rendre dessus, hein. Ça peut toujours être rigolo de voir.
Juste aller dans le mode en ligne, sélectionner tournoi, et là vous avez une liste de tournois, ouais. Et voilà. Il suffit de cliquer sur Gameblog Cup entre quelle heure, je dis ?
Entre 20h et 22h.
J'ai une image en tête.
Voilà. Parce que après Poufy en fait organise des vraies soirées.
Même voilà.
C'est très différent avec des gens tout nus et des
à
masques.
À partir de 22h, il y a l'after quoi.
C'est voilà, exactement.
Tu sais le fait que tu dises Poufy organise des soirées, trucs comme ça, je sais pas pourquoi, et comme il s'agit d'un jeu, ça m'a mis en tête l'image des personnages de Jet Set Radio qui te filent l'émission, tu sais. Genre le mec qui est planté debout au coin d'une pièce et qui passe son temps à danser sur place comme ça, et genre tu te rapproches de Poufy et c'est là il t'intègre à une partie de
Mario Kart 8. Comme ça se passe
des trucs trop chelous dans ta tête.
Mais je sais pas pourquoi j'ai eu ce flash en train de voir Poufy en
train de
danser.
Moi je sais pas pourquoi j'ai pensé à Ice Watch Shot non plus, hein, quand j'ai dit qu'il organisait des soirées, mais bon après ça c'est encore une autre histoire. Voilà. Okay.
Moi quand je pense à Poufy, je vois Gizmo. Je sais pas pourquoi.
D'accord. Quand tu penses à Poufy, toi, Camille ?
À des dragons, des chevaliers, non ? des jeux de stratégie. Je l'ai perturbé.
Bon, en général c'est sous la douche. Bon, on va passer au fail maintenant. Le fail, est-ce que...
Je peux rajouter un petit truc sur le... Finalement, ça ferait presque un thème sur le win. Non, parce qu'il y a un truc intéressant quand même, c'est que bon, la Switch cartonne. Elle surcartonne, elle bat tous les records.
C'est même trop, en fait.
Hein. Mario Kart bat tous les records, etc. Mais il y a quand même une news
comme
qu'on
Daniela
a publiée
aussi,
cette semaine et qui est vachement intéressante sur le profil des premiers acheteurs de Switch.
Exact.
Et c'est étonnamment, à plus de 60-70% des adultes, en fait, qui l'ont acheté et qui sont en fait des gens comme toi et moi ou comme vous, peut-être, qui sont... âgés de 25, 35, voire 45 ans, qui sont des gros fans de Nintendo, qui ont été en fait majoritairement, massivement les early adopters, en fait, comme on dit, donc les premiers acheteurs de la Switch. Et c'est un vrai carton finalement, donc qu'il faut peut-être relativiser et se dire voilà, il reste quand même beaucoup de chemin à Nintendo pour la suite, en fait, parce que là on dit on est sur le bon trend, on est sur le même trend qu'avec la Wii, sur le même trend qu'avec Mario Kart de la Wii, etc.
Mais avec les gens qui ont du pouvoir d'achat cette fois.
Exactement. Et avec des early adopters en puissance, c'est-à-dire des nostalgiques Nintendo, etc. Est-ce que et c'était pas le cas de la Wii, parce que si tu te souviens bien, la Wii ça a été un choc grand public immédiat. Donc à voir en fait si finalement le trend ne serait pas trompeur. Et c'est pas ce qu'on souhaite à Nintendo évidemment, hein,
mais
ce que je veux dire, c'est
pas,
que
on n'est pas à l'approche
non, mais
de Noël,
ça va être,
donc
ça va être vachement intéressant. Voilà, je pense que toute la période entre maintenant, qui est un lancement, on va dire, plus que réussi, un lancement énorme, je veux dire, sur le toit du monde, quoi.
Bah, c'est l'antithèse de la Wii U, là.
Est-ce que le trend va continuer jusqu'à cet hiver et les fêtes de fin d'année avec la sortie de Mario Galaxy, Mario Odyssey notamment, hein, et puis tous les autres jeux qui vont être annoncés pendant le 3 à mon avis pour la deuxième partie de l'année. Est-ce que ça va être transformé en termes grand public? Voilà, c'est ça que la question qu'il faut se poser.
Bon,
je pense.
En tout cas, les objectifs sont clairs, hein, c'est 100 millions.
Pas plus tard que le week-end dernier, pour citer un exemple à la con, il y a mon beau-frère, hein, le mari de ma sœur, qui me disait la Switch.
Je pensais pas que tu allais me raconter une anecdote en fait. Je pensais que tu allais arrêter là.
Il voit la Switch là que j'avais emmenée un week-end et tout. Il me dit ça marche pas tant que ça. On n'entend pas tout parler. Je lui dis tu rigoles, c'est un putain de carton. Il me fait c'est un carton, c'est marrant.
Il prend le métro ou pas? C'est
Mais tu vois, pour le grand public, c'est pas forcément encore, tu sais, l'objet de tous les désirs comme a été la Wii à l'époque.
Mais en plus, il faut pas oublier qu'au moment de la sortie de la Wii, elle était ultra médiatisée. Genre tu la voyais
là, c'est très médiatisé aussi.
Non mais pas de la même manière, je trouve. Tu la voyais en couverture des journaux, tu la voyais au JT de 20h, etc.
Il y a beaucoup de pubs.
Là il y a beaucoup de pubs. Mais
au
moment de la Wii, c'était de la médiatisation au sens
tu parles du bruit médiatique,
au strict au sens strict du terme. Et c'était, comme disait Julo, des jeux pas casual mais très grand public. C'était l'impact de Wii Sports, etc. Là tu vois, par curiosité, j'ai fait jouer à des gens, à des non joueurs ou très très occasionnels, à One to Switch. Ça a pas du tout fait le même effet que
ça
Wii Sports.
Ça a pas le même impact. Ouais.
Ça les a plus ou moins vite saoulés en fait. Bah, trouvaient que ça marchait pas très bien et que c'était...
Moi, ça marchait très très bien sans mes enfants par exemple.
Comme on a déjà dit, les enfants, tu peux faire coucou bœuf pendant 6 heures avec eux, c'est la même énergie.
Non mais les enfants, ils sont grands, ils sont avisés, ils ont joué à plein de jeux.
Non mais en revanche, ce qui les a beaucoup plus intrigués et ce qui leur a fait envie, qu'ils m'ont demandé d'essayer, c'était Mario Kart.
Ouais, Mario Kart, ça marche.
Ah, Mario Kart, c'est universel.
Mario Kart a fait beaucoup plus d'effets et des gens qui n'avaient pas joué à Mario Kart depuis très très longtemps m'ont dit ouais, c'est toujours génial. Je crois que même quelqu'un m'a dit ouais, c'est toujours le meilleur jeu du monde. Donc tu vois, c'est Mario Kart 8 fait plus d'effets que One to Switch auprès
de toute façon, c'est la plus grosse licence de Nintendo. Hein,
ouais, Mario
Kart. Oui, puis One to Switch, c'est pour commencer vite fait pendant deux heures et puis après on n'en parle plus.
Bon, bref, désolé d'avoir prolongé ce.
Voilà, t'as d'autres anecdotes comme ça?
Non, pas de problème. On passe au fail si tu veux, il n'y a pas de soucis.
Enfin, alors le fail de cette semaine, mon petit Julo, c'est un fail qui est.
C'est encore une histoire juridique de nom, de marque, etc. qui est un petit peu tristoun, je trouve.
Un peu con, je trouve.
Ouais.
C'est complètement con, on peut le dire même.
Ça concerne le petit studio Nomator Studios qui avait lancé un Kickstarter il y a quelques années pour un jeu qui s'appelait Pray for the Gods,
absolument.
Voilà, Pray for the Gods. Kickstarter qui a rapporté quand même plus de 500 000 euros sur les 300 qui étaient demandés. Gros succès, donc. Mais les développeurs, donc Nomator Studios, ont annoncé il y a quelques jours qu'ils avaient dû changer le nom du jeu. Et là, je vous le donne en mille. Pourquoi ? Eh bah, bien, parce que Bethesda leur a demandé tout simplement de changer ce nom parce que Pray for the Gods, il y a Pray dedans et Bethesda sort Pray. Et donc, c'est problématique. Et là, on se dit, mais c'est quand même pas possible. Enfin, je veux dire,
on peut pas... Surtout un mot si basique que
ouais,
ça.
Ouais, c'est un mot Pray, quoi. Enfin, je sais pas, ça paraît dingue. Alors, en fait, effectivement, les développeurs ont dit qu'ils auraient pu se battre. Hein. Mais le petit développeur qui sont face certainement à l'armée d'avocats que pourrait dépêcher Bethesda, bah, ils se sont dit allez, on s'en fiche. Donc ils ont changé le nom et désormais c'est Pray, donc P-R-A-E-Y.
Qui mixe donc la prière et la proie. Voilà, c'est plutôt bien vu. C'était leur intention de base en plus.
Apparemment, en plus, ils avaient pensé à ce nom au départ. Donc, bon, voilà, c'est. Pour info, comme vous pouvez le voir en image, si vous êtes premium, chers amis, c'est un jeu qui fait beaucoup penser à Shadow of the Colossus.
Ouais,
qui est
un mélange de survie et Shadow of the Colossus. J'ai failli le baquer, je l'ai pas fait.
Et bah, t'auras un taquet, du coup. Ouais.
Non,
t'as pas baqué, t'auras un taquet.
Mais tu vois, cette histoire, ça
va bien se passer.
Non, mais c'est dingue qu'on puisse en fait déposer des termes aussi basique quoi.
Bah, il y avait eu Ubi qui avait déposé Ghost. Du coup, il y avait eu une opposition avec Electronic Arts qui a un studio qui s'appelle le Ghost Studio. Là, il y a pas très longtemps, CD Projekt a été obligé de se
Le plus connu, c'est Candy Crush. Là,
oui, avec Saga. Oui. Oh là,
dès qu'un terme avait Saga, hop, il collait un procès pour.
Mais dans un registre un peu différent, il me semble que à la fin des années 90, alors peut-être que les mélomanes qui nous écouteront
les Yellow mélomanes
le sauront mieux que moi, mais il me semble que Metallica avait tenté de déposer un accord de guitare. Donc c'est pas mal aussi dans le genre, le côté combat juridique, mais ça me fait aussi penser, vous en souviendrez peut-être, à la fin des années 90, un jeu qui était sorti sur PS1 qui s'appelait Dead Ball Zone, et c'était donc les initiales DBZ, et c'était au moment de la DBZ Mania chez nous. Et donc sur
et Bandai, ils les avaient fait chier.
Toutes les pages que tu avais de pub dans les magazines, ils mettaient pas le nom du jeu en entier, ils mettaient juste DBZ.
Les initiales.
DBZ en gros. Et il n'y avait pas eu de. Tu vois, alors que c'était plus flagrant que cette histoire-là, et il n'y avait pas eu
ils
de.
Ils récupéraient le phénomène, quoi, un peu.
Alors, ça n'avait en plus rien à voir aussi bien en termes d'univers que de style de jeu, etc.
Ça attirait l'œil immédiatement.
Même là, enfin, vous voyez, comment tu veux confondre un jeu qui s'appelle Prey et un jeu qui s'appelle Pray for the Gods? Elle est où la confusion, quoi?
DBZ, c'est très spécifique. Le mot prière, quoi, enfin, ou prier, c'est je trouve ça pas terrible.
Enfin, là, en l'occurrence, c'était plutôt le mot proie, en fait. Puisque c'était avec
le mot prêt,
c'était avec le E.
Oui, je suis bête.
Bon, au moins, ils ont pu garder leur logo aussi, hein, qui est un mélange de A et de E. Parce qu'on voit une petite.
Mais ça, c'est le logo AE ? Non, c'est l'ancien logo, ça.
Non, c'est le logo qui reste. C'est leur premier logo. Parce que ça fait un A aussi, la forme de la jeune femme en train de prier. Aussi un A, ça fait aussi un E parce qu'il y a son écharpe, il y a sa natte et il y a ses pieds qui font.
Ils vont l'écrire différemment, mais le logo reste le même.
Ils vont pivoter le logo un petit peu de la nana qui l'a penché.
C'est quand même fou.
Merci pour cette précision, mon petit plume.
Et oui.
Et voilà.
Dans quel monde vit-on ?
Dans un monde à la con. Mais CD Projekt, d'ailleurs, j'oubliais, mais ils ont été obligés de se justifier il n'y a pas très longtemps par rapport à l'achat de du terme cyberpunk pour Cyberpunk 2077. Et eux, ils ont dit non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci avec nous. C'est pas parce que si vous appelez un jeu, je sais pas, les attaquants cyberpunk de l'outre-espace ou je sais pas quoi, vous n'aurez aucun souci avec nous. Mais s'il s'appelle Cyberpunk.
J'achèterais un jeu qui s'appelle comme ça. Cyber... Les attaquants cyberpunk de, non, mais de l'outre-espace.
Ils avaient mis un truc.
C'est pas mal. C'est accrocheur.
Ils avaient donné 2-3 titres bizarres. C'était super long, un peu comme Pray for the Gods. Mais si c'est Cyberpunk 2, Cyberpunk machin, là par contre, ils pourraient effectivement se rebeller et dire non. Mais en tout cas, ils ne le feront pas. Pour d'autres cas un peu différents. Bref, on va passer maintenant au thème numéro 1 de la semaine, messieurs, ou plutôt Camille. On va parler d'une licence qui revient un peu d'entre les morts, on peut le dire.
Oui,
parce que ça fait quelques années qu'on n'a pas eu l'occasion de faire des petits rocket jump sur Quake. Et ça fait quelques temps maintenant que Quake Champions, digne héritier de la série Quake, il est de retour, tout bêtement.
Il est de retour, avec... il fait à peu près exactement la même chose qu'avant, jugé par les images.
Ça va tellement vite.
Ouais, c'est fait exactement ça. C'est un FPS ultra nerveux.
Un fast FPS, on peut le dire.
Un fast
le
FPS,
fast
absolument.
FFPS.
Et justement, il était en bêta fermée il n'y a pas très longtemps, Camille.
Exactement.
T'as pu l'essayer.
Exactement.
Est-ce que la magie de Quake est de retour?
Alors oui.
Voilà, merci Camille.
Merci Camille, on change de thème.
Bon bah. Non, oui, alors clairement la magie de retour, d'autant que en fait, quand Doom était sorti, donc il y a un an, ID Software avait commencé plus ou moins à teaser qu'il y aurait d'autres surprises bien un peu plus tard. Et tout le monde s'était dit
Ça sera Quake.
Ça sera Quake forcément, et puis ça a pas loupé, c'est Quake. Et le plaisir est toujours présent parce qu'en fait, comme disait Julo, c'est la même recette, mais finalement en modernisé.
Oui, parce que Quake 3, on joue toujours à Quake 3 Arena de nos jours, même en tournoi, même en compétition.
Mais oui, c'est un jeu qui reste dans l'esprit des gens.
Quake 3 Arena qui est sorti en
99, fin des années 90. Ça, ouais.
Mais c'est juste incroyable, quoi. Dans le souvenir des gens, c'est le jeu à laquelle on jouait après le goûter le samedi après-midi. Enfin, c'est Quake 3 Arena.
On n'a pas eu la même enfance.
Chez Joystick aussi à l'époque, ils n'arrêtaient pas de faire des parties.
À la rédac à l'époque, c'était dingo, quoi. Ça jouait à Quake 3 Arena pendant des plombes.
Alors que c'est moche, c'est vide, mais ça va super vite.
Je me souviens avoir essayé 2-3 fois et m'être fait fraguer comme une merde, sans jamais avoir fragué personne.
Pour changer, là, c'est plus vide et c'est plus moche.
Ah,
donc
bah
c'est
voilà.
Devenu beau et c'est devenu moins vide, et pour autant, c'est le même principe, c'est-à-dire que ça repose sur quand même sur la rapidité. Pour Doom, beaucoup de gens disaient que c'était finalement un fast FPS, mais ça ne l'était pas forcément, donc le solo était plutôt lent. Alors que là, c'est vraiment le fast FPS pur et dur, c'est-à-dire qu'on va faire du rocket jump,
Alors rocket jump, on va expliquer rapidement.
Alors,
c'est une espèce de glitch qui a été trouvé par les joueurs.
Exactement.
Attends, je confonds avec Unreal Tournament, c'était un truc comme ça aussi.
Unreal est dans le même style, oui.
Unreal est dans le même style, ouais.
C'est celui-là qui tournait pas mal.
Le rocket jump, ça consiste simplement à utiliser une roquette et faire un saut, en fait.
Grâce au souffle de l'explosion de la roquette, on peut sauter plus haut.
À l'époque, c'était, comme tu disais, une sorte d'exploit, et maintenant, c'est devenu pas un mème, mais presque.
C'est une mécanique de gameplay à part entière.
Exactement. Et quelque chose que réclament énormément les gens. Dans les armes, d'ailleurs.
On veut des rocket jump.
Dans l'arsenal, on retrouve ce qui faisait le charme du Quake 3 Arena. Il y a le Nail Gun, il y a le Minigun, enfin tous les armes qu'il y avait déjà précédemment. La seule grosse différence, c'est que maintenant, ça va plus être des personnages anonymes, ça va être des héros. Alors là, on pourrait dire oui.
Des champions que tu avais croisés dans les précédents épisodes.
On peut dire qu'il y a Overwatch qui est passé par là, oui et non. Alors oui, parce qu'effectivement, c'est le principe du héros. On a, en fait, chaque héros a des capacités, des caractéristiques spéciales. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir l'impression de jouer sans cesse avec le même personnage, on a vraiment une vraie différenciation et on a des mécaniques de jeu qui vont vraiment changer. On a, alors désolé, les noms, je les ai plus exactement.
Je me rappelle de.
En tête, mais on a par exemple. Alors, moi, le personnage qui m'avait le plus marqué, c'était Anarchy dans la bêta. En fait, il utilise une sorte d'overboard. Déjà, ça donne un côté.
Ah ouais. Non, de Zeus.
A donné un côté assez classe, et ça lui permet déjà d'aller très vite sur le champ de bataille, enfin dans l'arène plutôt, et en plus d'amortir ses chocs en tombant. Parce qu'en fait, le jeu offre beaucoup plus de verticalité qu'auparavant. Enfin, dans Quake 3 Arena en tout cas. Ce qui fait qu'on va avoir des niveaux avec plus, enfin des arènes avec plusieurs niveaux, 3, pas fort 4 niveaux, évidemment avec les fameux puits de lave et tout ce qui peut être mortel pour le joueur. Et du coup, ce fameux overboard peut permettre d'amortir la chute. On a aussi par exemple Nyx qui a une caractéristique qui s'appelle le Ghost Wall, qui permet d'être invincible pendant quelques temps. Et on a aussi par exemple Visor qui peut à la caractéristique de voir à travers les murs pendant quelques temps. Encore une fois, ça c'est un exploit, le fameux exploit de voir à travers les murs, ça c'est quelque chose qui était déjà présent beaucoup dans l'FPS et c'est devenu une petite mécanique de jeu. Alors ne vous inquiétez pas, ça dure pas tout le long de la partie, hein. C'est quelque chose avec un cooldown qui s'estompe avec le temps et qui revient. Mais voilà, ça a son charme de jouer des héros. Donc oui, effectivement, Overwatch, on sent quand même que ça a eu un impact, c'est clair, parce que sinon on aurait pu remettre des anonymes, ça aurait pas énormément changé. Mais voilà, donc c'est l'esprit Quake qui revient, l'ADN Quake qui est vraiment présente, que ce soit dans l'arsenal, que ce soit dans tout ce qui fait le charme, les grosses voix des personnages, les taunts. On a les personnages qui s'insultent, qui se font des bras d'honneur. Enfin, c'est vraiment le.
Ah, ça me rappelle un autre jeu, ça, les bras d'honneur, je sais pas pourquoi.
Moi aussi.
Ah ouais. Non, c'est Mario Kart en fait.
Oui, je sais, voilà. J'ai vu la vidéo. Et donc voilà, que dire de plus, c'est
Quake,
vraiment
Mario Kart, même combat, hein, franchement.
Ouais. C'est le retour du fast FPS, le retour du roi entre guillemets.
D'accord.
Pour l'instant, à sans faute. Alors il y a quelque chose quand même qu'il faut retenir, c'est que c'est un free to play. Donc quand on dit free to play, on peut se dire ah mais il va avoir un cash up qui va pas du tout être permissif, ça on va devoir sinon ça va se transformer en pay to win. Et en fait pas du tout, en tout cas pour l'instant. Donc ce qu'a prévu les développeurs et des softwares, ils veulent faire un cash up qui est uniquement basé sur le cosmétique, donc débloquer de nouveaux personnages, débloquer des skins pour les armes, etc. Mais rien de ce qui est capacité, rien de ce qui est nouvelle map, tout bon. Ça sera du contenu gratuit parce que maintenant de toute façon c'est un peu aussi la nouvelle idée des développeurs et éditeurs, c'est ne plus vouloir séparer
idée d'ID.
Ne plus vouloir séparer les communautés, ne pas scinder les communautés. Voilà, pour Battlefield, pour Battlefront, excusez-moi, ça va être le cas, et beaucoup de FPS pour Call of Duty, exactement pareil. Donc pas plus d'intérêt à devoir scinder la communauté. Ça, vous inquiétez pas.
C'est ce que Phil Spencer, par exemple, appelle le jeu service. Tu sais, comme ils veulent faire en sorte que les joueurs, la concurrence étant ce qu'elle est, que les joueurs restent sur leur jeu pendant plusieurs années. Le moyen qu'ils ont trouvé, c'est l'idée actuelle, hein, c'est de laisser accès à tout le monde tout le temps. Ouais. Et s'ils veulent payer, c'est pour des trucs plus facultatifs. Et comme ils arrivent à les accrocher sur des plus longues périodes, ils imaginent que sur le long terme, ils arriveront à faire plus d'argent en passant par là. Donc,
on a vu qu'Electronic Arts avec Battlefront comptait aussi changer un peu son modèle.
Il l'a déjà fait
avec Titanfall.
C'est la nouvelle mouvance.
Pas bloquer les gens qui payent pas, quoi.
Parce qu'il reste
pour garder une communauté.
Quel intérêt de scinder la communauté quand on voit le résultat que ça a eu sur Battlefront premier du nom, où les serveurs étaient à moitié vides au bout de 6 mois, quoi.
Ouais, c'est ça qui est malin entre guillemets, c'est que à cause des DLC, souvent quand tous ceux qui les achetaient passaient sur les serveurs uniquement avec ces nouveaux contenus, et tous les autres se retrouvaient dans des maps vides, donc au bout d'un moment t'abandonnes, tu passes à un autre jeu. Donc là c'est pas forcément une mauvaise idée.
Quake Champions est prévu aussi sur console, c'est pas uniquement
non,
sur
PC. Non, c'est une exclusivité PC.
D'accord.
Peut-être honnêtement ça m'étonnerait que ça change, puisque vu comment a été
non, parce
fait,
que Doom ils l'ont fait sur tout.
Doom ils l'ont fait, mais c'était spécial.
Doom, c'est différent.
C'est
un jeu à gros budget quand même, Doom.
Il y avait une campagne solo, il y avait qui a une grosse importance. Là c'est uniquement multi, et puis honnêtement le fast FPS c'est pas vraiment le genre de prédilection des joueurs console, et c'est pas le jeu qui s'adapte vraiment à une manette, quoi.
Justement, tu parlais de communauté, en termes d'engouement autour du jeu, tu sens quelque chose de positif par rapport à Quake Champions?
Clairement, quand on se rend sur les différents forums, que ça soit francophone ou anglais, etc., on se rend compte qu'il y a un engouement. Alors pas forcément un engouement énorme comme ça a pu être pour Overwatch, puisque la machine Blizzard fait que de toute façon le jeu aura forcément du succès, mais Quake Champion a quand même un vrai nom qui a de l'importance dans le monde du jeu vidéo. C'est-à-dire que Quake, ça résonne dans l'esprit des gens, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et donc du coup, il y a quand même un gros apport à ce niveau-là. Il y a les anciens, beaucoup d'anciens qui jouent encore à Quake Champion, enfin à Quake Arena, qui vont peut-être migrer. Alors peut-être pas tous, mais en tout cas une partie. Il y a ceux qui n'ont jamais connu Quake et qui se demandent pourquoi on parle tant de Quake et qui vont peut-être s'y mettre. Donc oui, il y a un engouement. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, en fait, le fait que ça soit free to play, c'est pas si bête que ça. Ça va permettre d'avoir une communauté assez grosse là-dessus, en sachant que, désolé, je vais encore reparler d'Overwatch, mais c'est un peu malheureusement
c'est la référence du moment.
C'est un peu la référence du moment dans l'esprit des gens, et même que ce soit en termes de marché et de chiffres. Et donc, du coup, pour réussir, alors pas se mettre au niveau, parce qu'ils n'arriveront jamais à faire un score comme Blizzard a réussi à faire avec Overwatch, à moins d'un miracle. Mais en tout cas, ils sont bien partis pour avoir quand même une grosse communauté, et en plus de ça, le fait que ce soit free to play, ça peut être qu'un avantage pour eux.
Donc, tu penses qu'il est il peut faire son trou
il
dans
peut
le.
Il peut faire son trou, en tout cas, plus que l'Obre Breaker, donc du studio de Cliff Bezinski, parce que c'est vrai que Lawbreaker, ça avait fait un Il y a eu un gros écho par rapport à ce jeu en 2016, et puis très vite, c'est redescendu, l'hype est redescendu.
Est-ce que tu penses que c'est lié à l'absence d'une licence connue ?
Alors, je pense que c'est lié à l'absence d'une licence connue et aussi la façon dont a été communiqué le jeu. C'est-à-dire que on a eu 4-5 vidéos de suite où c'était sur la même map. La grosse communication qui avait été faite avant même le lancement du jeu, c'était que ça serait un jeu où il y aurait de la gravité zéro. Le problème, c'est que la gravité zéro, bah, on l'a très peu vu. Et puis, voilà, le jeu rame dans son développement. Il n'y a plus beaucoup de nouvelles. Enfin, c'est assez dommage de dire ça, mais pour l'instant, c'est un peu au point mort.
Une com un peu chaotique autour
voilà,
du truc.
Voilà, c'est ça. Alors que Quake, dès le début, ils ont su attraper le joueur en vol. Ils ont montré les différents héros. Ils ont axé leur communication sur le fait que justement chaque héros avait une personnalité propre avec avec des capacités spéciales. Et donc du coup ça a permis aux joueurs de se dire ah mais oui mais du coup bah, cette vidéo là c'est pas la même que celle que j'ai vue la semaine dernière, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire
Et c'est peut-être qu'ils ont attendu aussi que le développement soit suffisamment avancé avant de commencer à en parler. Peut-être que Blazinski a parlé un peu trop tôt du
clairement
de,
parce
de,
que Quake Champion
de Lawbreakers.
Exactement comme tu dis Romain, Quake Champion a été annoncé l'année dernière peu de temps finalement après Doom, donc très vite, on a eu des nouvelles, on savait qu'il y aurait une bêta fermée qui allait commencer, d'ailleurs elle vient de se terminer il y a très peu de temps, et donc du coup il n'y a pas eu d'énormément d'attente, il n'y a pas eu le temps de s'ennuyer en fait dans l'esprit des gens, et ça c'est plutôt une bonne chose aussi dans la communication, en tout cas à l'heure actuelle où tout le monde, où la vitesse est un peu le...
Surtout qu'on est abreuvé de contenu et de jeux et tout en permanence, faut vraiment bien faire calculer ton coût, sinon t'es oublié,
Bethesda,
tu te noies dans la
masse. En
général
ils se débrouillent bien, hein. On peut dire que quand il s'agit de marketer un jeu et de garder, laisser c'est l'idée dans la tête des gens que le jeu existe, ils savent se débrouiller.
Et puis ils n'ont pas fait l'erreur, contrairement à d'autres éditeurs, je sais pas qui auraient pu faire ça avec Mafia 3, où c'était du matraquage, mais un peu trop limite industriel, où les gens, ils en avaient limite marre. Là, il n'y a pas vraiment eu cet aspect-là, puisque déjà la communauté est plus petite, et en plus de ça, comme je vous le disais, il y a vraiment une différence entre chaque vidéo, et on voit vraiment là où ils veulent en venir en fait.
Et donc là, c'était la bêta fermée, mais le jeu sort quand?
Là, c'était la bêta fermée, malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucune date de sortie spécifique.
Mais ça t'avait l'air d'être.
C'était déjà bien avancé, il y avait quand même pas mal de héros, il y avait pas mal de maps, il y avait deux modes de jeu, il y avait le mode Team Deathmatch et Deathmatch, il y aura aussi le mode Duel qui va faire son apparition, mais non, pas de date de sortie, mais comme c'est une bêta fermée,
Duel, c'est quoi, c'est du one
mode
on
Duel
one,
c'est du, voilà, c'est tout simplement, mais comme c'est une bêta fermée, le jeu est quand même une belle évolution dans le développement, et à mon avis ça devrait sortir dans l'année très clairement.
Peut-être pendant la conférence de Bethesda à l'E3.
Oui, c'est pas impossible, j'ai dit, ouais, c'est genre, studio, c'est dispo ce soir.
Ouais, voilà, moi je pense que c'est leur truc de faire ça, de faire.
Bah,
oui.
Comme ils avaient fait avec Fallout Shelter.
Exactement, ouais.
Et ça avait plutôt même marché d'ailleurs.
Ouais, carrément. Fallout Shelter a eu un gros succès.
Mais après, ce sera peut-être dans la même fenêtre de lancement que l'extension Morrowind pour The Elder Scrolls Online.
L'extension Morrowind pour The Elder Scrolls Online, je me semble que c'est un. Alors, si je dis pas
c'est un petit peu avant le 3.
Un tout petit peu avant le 3.
Ouais, donc peut-être
c'est
que
pas le même public. Forcément,
ouais, c'est pas,
ouais, mais bon,
c'est pas
ils ont pas envie de relâcher les mêmes leurs produits à peu près au même moment, tu vois. Bon, après, je dis ça comme ça. Hein, bon.
Non, Bethesda, de toute façon, là, c'est là où ils sont attendus au tournant, c'est clairement aussi pour Quake, mais aussi pour la saga Elder Scrolls, comme tu disais. Pas forcément le côté MMO qui a quand même son public, mais.
Oui, tente de sortir le 6 là.
Les gens attendent voilà, un vrai RPG solo. Voilà. Qui ferait suite à
ça. Là, ça fait un an et demi après Fallout 4, c'est le moment.
Ça serait, à mon avis, une bonne fenêtre de lancement.
Ouais.
Bon. Et d'autant que, alors, une petite divergence, mais pour l'annonce de l'E3, comme chaque fois, Bethesda présente une sorte d'artwork avec les différents jeux qui sont présentés. Et il y a deux jeux, en fait, ils ont présenté sous la forme d'un.
C'est un parc d'attractions, avec différentes zones et attractions en fonction des différentes
qui
licences.
Des jeux.
Et sur la map du parc, on va dire, il y a deux zones en travaux. Voilà. Donc, on imagine que ça correspond à deux jeux annoncés à l'E3. D'ailleurs, si vous voulez voir l'image, hein, allez sur la news, elle est sur Gameblog.
Bon, ils se prennent accessible. Pas la tête, non? On peut à peu près deviner ce que ça va être, non?
Evil Within 2
et
certainement
un nouveau Elder Scrolls.
Alors, moi, ça me paraît Elder Scrolls. Moi, je suis le premier à vouloir ça parce que je suis vraiment un grand fan de la saga. Fait... Mais le problème, c'est qu'il y a pas longtemps, ils ont communiqué sur Elder Scrolls en disant ça sera pas pour tout de suite qu'il y aura un solo. Donc, je ne sais pas.
En plus, il faut garder à l'esprit aussi que bon, après, c'est peut-être lié au MMO, mais il y a des éléments Elder Scrolls sur le dessin. Ça fait pas partie des licences cachées du truc.
Je pense que c'est lié au MMO.
Ah oui, il est tout en haut, Elder Scrolls, avec son petit guerrier là. Et
ça,
tout,
c'est lié au MMO, et puis peut-être aussi à la version Switch de Skyrim.
Ça peut pas être un truc Fallout. Ah, Fallout en plus doit y être dans l'artoir.
Il y aura Fallout VR, hein, d'autre manière.
Non, de toute façon, on a dit Fallout, ils vont la mettre en pause au moins avant jusqu'à faire un Elder Scrolls, ça me paraît évident, mais après.
Bah là, ils peuvent, parce qu'il y a Doom et tout sur la map, ils peuvent potentiellement reparler de Fallout 3, Fallout 4 Doom en VR aussi, parce qu'ils les ont annoncé l'année dernière.
Oula, Doom en VR, ça va être compliqué. Hein.
Bah, ils l'avaient annoncé.
Ça va faire mal au cœur, je crois.
Mais c'est plus qu'annoncé, puisque je l'ai testé.
Oui, tu l'avais testé à la Gamescom.
À la Gamescom.
Mais c'est, ouais, non, ça risque de faire un peu mal au cœur à tout le monde, ça.
Non, bah, c'est comme Serious Sam VR qui est sorti, qui est en Early Access. Hein, c'est pas du tout en fait un FPS dans le sens classique qu'on entend. C'est-à-dire qu'on est un peu sur. On est même pas sur rail, on est fixe. Et donc, on voit les vagues d'ennemis qui arrivent, donc c'est plus un jeu de survie finalement qu'un FPS où il y a du mouvement, quoi. Donc non, à ce niveau-là, ça n'a pas trop d'inquiétude.
Bon, en tout cas, Quake Champions, belle sensation
dessus. Pour l'instant, un sans faute, on peut le dire.
D'accord.
Donc reste à voir vraiment comment va évoluer le jeu, le nombre de maps au final, le nombre de personnages et évidemment l'attrait pour la communauté, parce que s'il y a des serveurs vides, ça ne va pas forcément le faire. Voilà.
Très bien, on va passer au deuxième thème de la semaine. On va reparler de Call of Duty World War II. Et oui, parce que c'est encore un FPS, absolument. Encore une semaine avec ce jeu qui a été annoncé la semaine dernière avec une belle bande-annonce. Rappelez-vous, la bande-annonce de Call of Duty World War II, super cinématographique, super il faut sauver le soldat Ryan. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, mais là on revient dessus parce que les développeurs ont apporté quelques précisions, Camille.
Exactement.
La façon dont allaient être abordés certains thèmes très sensibles de la Seconde Guerre mondiale. Et là on parle directement de l'Holocauste.
Exactement. Alors, Sledgehammer veut que ça soit un peu l'opus de la maturité, enfin le jeu de la maturité, le Call of Duty de la maturité. Et en cela, ils veulent éviter un peu les erreurs du passé, c'est-à-dire faire un Call of Duty qui soit uniquement axé sur certains aspects historiques en gommant les autres. Et finalement, en présentant, enfin c'est un peu étrange de dire ça, mais la partie fun, enfin je sais pas comment dire ça.
Pas comme ça en tout cas.
Voilà. Non,
la partie fun de la Seconde Guerre mondiale.
Non, je veux dire la partie FPS quoi.
La partie vraiment spectaculaire, purement FPS, spectaculaire, vraiment dans le gameplay fun, et gommer tous les aspects un peu sombres de la guerre, que ça soit la guerre en elle-même. Les combats traditionnels et aussi les choses un peu plus encore plus sombres, c'est-à-dire le massacre de masse. Et ça, c'est vrai que ça a été très peu traité dans le jeu vidéo de manière générale, et ça sera traité dans ce Call of Duty. Alors ça ira peut-être pas jusqu'au fait de voir libération d'un camp de concentration comme on a pu voir dans Band of Brothers, qui était très bien fait d'ailleurs à ce niveau-là, mais en tout cas le racisme, la xénophobie, tout ça sera traité dans le scénario du jeu. Ça a été prévu. Faut voir vraiment comment ça va être fait.
Connaissant la série Call of Duty, a l'habitude de changer de point de vue pendant le cours de l'histoire. Et
on peut quand même imaginer
que Call of Duty se permette de nous mettre dans la peau de quelqu'un qui a été déporté jusqu'à ces derniers instants. C'est quelque chose qui est largement envisageable, je pense. Pour vraiment marquer le coup, tu vois.
Mais on sait qu'il y a un.
Tu te rappelles de l'intro de Modern Warfare où quand même qui était d'une violence incroyable à l'époque, où tu vivais les derniers instants d'un mec qui allait se prendre juste une balle dans la tête, quoi, tout bêtement. Et c'était.
Alors je sais pas si ça va être ça précisément, mais comme je l'avais expliqué dans le dernier podcast. Ils ont prévu, ils ont teasé les développeurs qu'on incarnerait un personnage à laquelle on ne s'attendrait pas. Alors c'est soit un soldat allemand, soit effectivement peut-être un prisonnier de guerre, on ne sait pas encore, un prisonnier politique ou alors un prisonnier, un juif peut-être. Un déporté, on ne sait pas encore. En tout cas, ça sera traité et c'est plutôt. Ben, moi je trouve que c'est une bonne chose qu'on ne montre pas uniquement. Faut pas montrer la guerre c'est fun machin, il faut vraiment montrer aussi la cruauté du conflit. D'ailleurs pour l'instant le trailer l'a plus ou moins bien fait, on voit aussi que la guerre c'est pas que pas très propre.
T'as senti la volonté des développeurs quand t'as pu leur parler à l'occasion du reportage que t'avais fait là, qui souhaitaient vraiment justement être
dans le devoir de mémoire,
réaliste et dans le devoir de mémoire, voilà.
Ils l'ont précisé encore il y a pas longtemps, ils veulent être historiquement précis. Ils veulent que ce soit un respect aux morts de la Seconde Guerre mondiale, et donc en cela, effectivement, une historicité.
Ils veulent s'éloigner un peu du côté hollywoodien,
arcade, grand spectacle,
spectacle, etc. Voilà, ou la vision américaine unique, ce genre de choses. Mais d'ailleurs, en plus, ils ont eu quand même le précédent Battlefield. C'est le combien là, qui est sorti?
Le One.
Battlefield One. Ah oui, voilà, c'est One. Putain, je suis con. Battlefield One avec l'absence totale des Français. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui avait
des Russes aussi,
aussi.
T'es pas là, non?
Des Russes, oui.
Ouais, ouais. Et donc, alors même que Battlefield 1 prônait justement le réalisme, l'atrocité de la guerre, les machins, etc., le côté fidèle à l'histoire. Et là, ils nous avaient complètement déçus sur ce plan-là. Donc là, peut-être qu'ils ont pas envie de reproduire un peu cette même déception chez les joueurs, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord, mais après, il faut savoir aussi que Battlefield, eux, ils prônaient aussi le réalisme, mais dans le gameplay, c'est dans les sensations de tir, dans, dans la façon dont se déroule
ce qui sera probablement moins le cas déjà,
voilà, dans plus que dans l'histoire, alors que là Call of Duty n'a pas précisé spécialement du réalisme dans la façon de jouer, mais plus dans le scénario en fait en lui-même, et en cela
je pense qu'ils ont vraiment envie de faire quelque chose de marquant, et donc éventuellement incarner un déporté, parler de l'Holocauste, ça me paraît pouvoir être fait de manière hyper intelligente et hyper marquante.
Bah, j'allais vous poser tous la question, justement, est-ce que c'est pas justement quelque chose d'encore un peu trop sensible aujourd'hui de
ça n'est pas comment tu le traites, et c'est là que doit être justement tout le talent des développeurs dans la façon dont ils, et des scénaristes surtout dans la façon dont ils vont emmener la chose, mais ils sont capables de faire des trucs intelligents. Vous vous rappelez aussi, il y a cette fameuse séquence de l'aéroport là où tu pouvais où t'étais dans le camp des Russes,
tu jouais
et tu pouvais tirer ou pas tirer
un américain,
et machinalement le joueur tirait parce que il était joueur, c'est ce que je veux dire, et t'avais une réflexion assez intelligente qui pouvait naître dans la tronche du joueur au moment où il arrivait dans cette séquence de l'aéroport. Je pense qu'ils ont véritablement fait exprès de créer cette gêne, parce que
ça avait fait une polémique incroyable.
Mais quelque part il était de
ça a été expliqué.
Moi j'ai vécu le truc comme quelque chose d'intelligent dans un jeu, quoi. C'est-à-dire laisser le choix au joueur et voire même piéger le joueur qui va tirer automatiquement alors que il devrait pas, quoi.
Mais en même temps, il doit, parce que il est infiltré au sein d'une bande russe.
Oui, mais
et
tu
du
peux
coup...
tirer à côté.
Mais non, mais le problème de cette séquence à l'époque, c'était que il y avait pas de suspicion de la part des mecs avec qui t'étais si tu tirais pas sur les civils.
Ouais, le système était pas poussé suffisamment loin.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est un terrain glissant. Mais je veux dire, c'est comment faire un jeu aujourd'hui, hein, en 2017, faire un jeu sur la Seconde Guerre mondiale
en FPS.
Voilà. Et pas aborder ce point qui est un point essentiel, qui n'est pas un détail de l'histoire, comme diraient certains. C'est impossible de passer à côté. Je veux dire, le média est devenu assez mature, assez mûr.
Ah, tu penses que le média. Donc toi, tu penses que le média est assez mûr aujourd'hui pour traiter ce genre de choses, vraiment?
Ah bah, pour traiter tous les sujets, moi, je pense. D'accord. Oui, parce que on est capable de bien faire les choses maintenant. On n'a pas d'exemple de sujets sensibles.
Bon, Soldat Inconnu, par exemple, a très bien fait pour la Première Guerre mondiale.
Moi, je pense que le média est totalement capable de traiter ce genre de sujet.
Mais est-ce que le public est capable de bien l'accueillir?
Oui, aussi, parce qu'il y a des publics, pour tout, même si c'est vrai que Call of Duty, c'est un peu le jeu de guerre grand public. Moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que Call of Duty, justement, est la licence la plus apte à traiter de ce genre de choses correctement?
C'est la plus apte à nous surprendre sur ce point.
Voilà, après, ils peuvent complètement nous renverser et nous proposer un truc radicalement différent de ce qu'ils avaient fait.
Ce Call of Duty donne quand même une impression très différente de tout ça.
Mais tu vois, par exemple, l'idée de la scène de l'aéroport en Russie, c'était Modern Warfare ou Modern Warfare 2?
Modern Warfare 2, je crois. Ouais.
Et effectivement, ça avait marqué. Potentiellement, la scène pouvait être vue de manière intelligente. Mais le problème, c'est que le reste du jeu ne suivait pas forcément cette idée-là, tu vois.
Mais regarde là.
Alors que là, si tu te retrouves avec une scène de déportation super bien foutue, etc., mais que le reste du jeu, c'est des scènes d'action.
Non, mais moi, je pense que il y a pas que la déportation. J'ai l'impression que tout va être dur dans ce jeu et violent, tu vois.
Gritty.
Et il y a qu'à voir ce que nous disait Camille la semaine dernière dans le podcast. Mais sur le ça a l'air de tenir énormément à cœur pour les développeurs, quoi. Ouais. T'as vu un des développeurs quasiment chialer quand il
le fondateur
de Sledgehammer, qui a l'air d'avoir une histoire familiale comme beaucoup d'entre nous par rapport à la Seconde Guerre mondiale, et du coup tu ressens quand tu vois ça l'envie chez les développeurs de faire un truc, tu vois, on parle de devoir de mémoire, de réalisme, de traiter le sujet intelligemment, etc. Ça, ça peut être très bien fait. Hein.
Comme ça peut être casse-gueule.
En fait, faut pas que ça soit voyeuriste. Je pense que c'est ça. Faut pas que ça soit voyeuriste. Faut que ça soit dans le respect. Mm. Ouais, et si c'est fait dans le respect, il y a aucune raison que ça passe pas. Quoi.
D'accord. Bon, on surveillera en tout cas.
En tout cas, on est d'accord pour dire qu'on espère. Que
le sujet sera abordé, surtout
ça nous intrigue forcément parce que là on commence à aller dans des choses très très sérieuses et avec lesquelles il faut pas trop plaisanter et mettre des
Seven Nation Army. Il y a des séquences d'horreur quand tu peux te demander à des soldats par exemple les premiers camps qui ont été libérés. Les camps de concentration qui ont été. Alors, les Russes ont libéré des camps de concentration en premier, ouais. Si je dis pas de bêtises. Oui. Mais les Américains en ont évidemment.
Bah, en France déjà, hein, ils en ont libéré ouais. Quelques-uns en France.
Et imagine les soldats qui étaient. Parce que, bon, aujourd'hui, le truc est connu, mais les soldats ne connaissaient pas l'ampleur du phénomène, quoi. Et quand ils ont libéré des camps, ça a été des séquences, des visions d'horreur, quoi. Ça va peut-être un peu trop loin dans l'horreur, dans le look et tout ce que tu veux, mais il y a des façons d'aborder le sujet de manière intéressante et sans tirer des balles, quoi.
Bah, c'est vrai que dans Call of Duty 2, on voyait par exemple Stalingrad, c'était un peu manichéen, c'est-à-dire qu'on jouait les Russes, on montrait pas non plus l'horreur vraiment de la guerre, on jouait un héros, on tuait plein de gens et puis c'est tout, quoi. Il y avait rien derrière, alors que là, dans celui-là, ils ont vraiment la volonté de faire quelque chose de différent, avec une vision aussi allemande de la guerre. Ça, on le sait, il y aura ça. Voilà, après, une vision aussi de l'Holocauste, donc vraiment des gros changements.
Mais c'est peut-être parce qu'en fait, on a peut-être fait le tour du FPS bébête.
Oui, aussi.
Finalement,
oui.
C'est peut-être ça aussi. On en a mangé pendant plus de 10 ans. Et peut-être que maintenant, il est temps de revenir sur les mêmes sujets, mais de manière plus intelligente. Voilà, c'est ça.
Voilà.
Après, il y a tellement de critiques aussi de gens qui disent « Ah, mais c'est pas réaliste, machin. » Enfin, les gens aussi, il y a une demande aussi des gens qui veulent l'historicisme, qui veulent un respect de l'histoire. Donc, espérons que ça réponde à toutes ces attentes.
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moins, ils arrivent à nous intriguer et ils arrivent à nous faire penser que s'ils réussissent leur coup, ils vont faire très, très, très fort. Oh, s'ils y arrivent.
T'imagines, par contre, une scène de choix, genre tarte à la crème, entre guillemets, où le mec arrive avec ses deux flingues et qui déglingue tous les nazis d'une manière grandiloquente, etc. Là, on serait tellement déçus.
Ouais, là, ce serait affreux. Je pense qu'on ne serait pas d'accord avec ça.
Bon, en tout cas, on leur accorde quand même un gros bénéfice du doute. Hein.
Ouais, absolument. On en verra un peu plus à l'E3 à propos de Call of Duty World War 2 de ce côté-là. Et on va parler encore de Call of Duty parce que, mon cher Romain, Call of Duty World War 2 est un peu le point de départ d'une nouvelle polémique YouTube. Enfin, polémique. Disons, un énorme problème pour les YouTubers.
En fait, c'est pas forcément une polémique. Enfin, si, c'est polémique pour les YouTubers.
Ouais.
Mais c'est juste la fin potentielle d'une époque. Enfin, c'est potentiellement la fin d'une époque.
La fête est finie, en fait.
Bah, c'est clairement ce qu'a dit un des YouTubers. Alors, je vous explique. C'est des suites de l'histoire avec PewDiePie. Hein. Vous vous souvenez qu'avait fait grand bruit quand il a fait des blagues de très mauvais goût
raciste,
antisémite, fait référence aux nazis, à Hitler plusieurs fois, etc. Donc il s'est fait virer de Maker Studio, YouTube l'a exclu de son programme de partenaire privilégié en ce qui concerne l'affichage de pubs, etc., etc. Et ensuite, il y a des grandes marques dont les publicités étaient affichées sur les vidéos ayant ce genre de contenu, qu'on dit bah, « nous, on veut pas être associé à ce genre de contenu bah, ». C'est compréhensible hein, pour une marque. Et donc YouTube, en réponse à ça, pour pas perdre ses annonceurs, a mis en place un nouveau système qui permet aux annonceurs, s'ils le souhaitent, de ne pas être affichés sur des vidéos au contenu sensible. Contenu sensible, ça peut être plein de choses. Ça peut être les vidéos à caractère sexuel, les catastrophes naturelles, la violence exacerbée, les scènes de guerre, etc. Le truc...
Les kangourous qui se prennent un pain dans la gueule aussi, tu penses?
Oui, il y a catégorie spéciale kangourous qui se prennent des coups de poing aussi.
D'accord.
Et le truc... Bah, c'est que quand les annonceurs décident de désactiver par exemple les vidéos sur la guerre et sur la violence, eh bien ça désactive les pubs sur les vidéos de jeux de guerre.
Et donc les revenus publicitaires.
Et donc plus de revenus publicitaires ou bien moindre, parce que après il reste peut-être quelques petites marques qui acceptent d'être affichées là-dessus, mais bien moins, enfin elles sont moins nombreuses qu'avant et les campagnes concernées rapportent rapportent moins, tu vois. Et ce qui fait que dès l'annonce de Call of Duty World War II, comme c'est un jeu réaliste sur la Seconde Guerre mondiale, bah il y a plein de youtubeurs spécialisés dans Call of Duty qui se sont mis à faire des vidéos au sujet du jeu, et là très vite en fait ils se sont rendu compte que bah les revenus publicitaires étaient bien moins élevés que
jusqu'à 80%, tu disais.
Il y en a un qui parle de 90% de diminution. Donc,
de baisse.
D'un youtubeur à l'autre, ça peut changer, mais il y en a un qui donnait un exemple d'une vidéo. Il disait voilà, j'ai fait cette vidéo-là, elle a fait 250 000 vues, je sais pas quoi, en 24 heures ou peu importe. Et il dit voilà, ça avant, ça m'aurait permis de payer plusieurs factures, de m'acheter à manger, etc. Là, il se retrouve avec 10$, je crois. En revenus publicitaires pour une vidéo.
Mais alors pour quelle raison ? Parce que c'est Call of Duty ? Parce qu'il y a les tags violence, guerre ?
C'est un ensemble de choses. Le World War II, par exemple, du titre, peut jouer. Le fait que ça soit un jeu de guerre, des scènes de violence, etc. C'est un ensemble de choses, en fait. Mais cet ensemble de choses touche particulièrement les youtubeurs jeux vidéo et plus particulièrement les youtubeurs jeux vidéo qui traitent de jeux de ce type. Donc, certains disent commencent déjà à envisager l'après, tu vois, à dire bon bah va falloir que je me trouve un vrai taf. D'autres envisagent de passer sur Twitch ou sur des services comme Patreon. C'est un gros changement, et après il y en a d'autres qui disent faudrait que YouTube rapidement revoie sa politique et arrive à faire la distinction entre une image de guerre réelle et une image de jeu vidéo, même si les jeux vidéo sont devenus beaucoup plus réalistes et beaucoup plus sophistiqués visuellement ces dernières années, ça reste malgré tout de la fantasy et du jeu vidéo.
Ça serait que ça marche dans les deux sens. C'est des vidéos qui engendrent beaucoup de vues à la base, donc c'est forcément une perte potentielle de
pour
YouTube également.
Les mecs clairement risquent d'arrêter de. Ils font pas ça pour la beauté du geste, hein. Contrairement à certains youtubeurs amateurs qui font ça parce qu'ils aiment ça. Il y en a beaucoup qui font ça pour l'argent. Donc oui, ils s'arrêteront clairement de faire autant de vidéos si c'est ça. Ils sont on parle de comptes avec plusieurs millions d'abonnés dans certains cas. Donc pas des
petits. Oui, ça peut faire mal à YouTube aussi au passage. Hein,
pour l'instant,
forcément.
Pour l'instant, YouTube dit que les youtubeurs qui ont vu leurs vidéos démonétisées selon eux injustement peuvent déposer une réclamation. C'est pas garanti qu'elle aboutisse. Mais en tout cas, ils disent qu'ils continuent de travailler là-dessus pour essayer de trouver des. Enfin, pas vraiment de trouver des solutions, mais faire évoluer cette nouvelle politique.
Je suis pas sûr que ça reste longtemps, à mon avis. Ils vont trouver une solution.
Je pense pas qu'ils feront machine arrière.
Non, peut-être pas, mais ils vont trouver.
Totalement, parce que pour YouTube, en fait, c'est se retrouver vraiment entre deux feux. Parce que t'as d'un côté les investisseurs, enfin les annonceurs qui sont extrêmement importants. Tu veux pas te mettre à dos un Coca-Cola, tu veux pas te mettre à dos un Microsoft ou te mettre à dos un McDonald's ou que sais-je. Tu veux que leurs annonces qui rapportent énormément d'argent continuent d'être diffusées sur YouTube. Mais de l'autre côté, tu veux pas non plus que les YouTubeurs qui font des millions de vues arrêtent de faire des vidéos. Donc faut réussir à trouver un compromis, trouver un juste milieu, peut-être un système de contrôle plus sophistiqué des vidéos. Mais en tout cas, on sent clairement que la ruée vers l'or qu'a représenté YouTube pendant de longues années, ces dernières années, je pense que ça, c'est terminé. Ça va être plus réglementé. Parce qu'en plus, on dirait que YouTube essaye d'aseptiser un peu plus ses contenus. Je pense que l'avantage pour beaucoup de gens d'Internet jusqu'à présent et de YouTube en particulier, c'est que on n'avait pas toutes ces restrictions qu'on peut avoir sur la télé en termes genre avant telle heure tu peux pas diffuser tel contenu, tu peux pas dire de gros mots, tu peux pas dire. Et là, même les YouTubeurs eux-mêmes se sentent obligés de plus en plus de se réguler eux-mêmes, de plus dire de grossièreté à l'image, montrer certaines choses, de montrer plus des jeux grand public, etc. Donc il y a clairement un changement d'époque, en fait. Le YouTube connaître jusqu'à présent ne va plus exister.
Camille. Ça montre toute la stupidité du système, parce que au-delà de ça, alors ils vont brider les vidéos de jeux vidéo. Et à côté de ça, tu peux trouver des vidéos de guerre, clairement de guerre, hein, la guerre en Syrie, tout ça, des vidéos assez de même gore. Et elles restent par contre.
Oui, mais elles sont pas monétisées.
Oui, d'accord.
Parce que tout est lié à l'argent, en fait. C'est ça le.
C'est quand même assez scandaleux de voir ça. Enfin, que ça marche. Faudrait que ça marche dans les deux sens, et pas qu'il y ait un seul sens qui soit.
Ben ouais, mais je pense que c'est le problème, c'est la monétisation de ce genre de contenu.
C'est juste ça, en fait. Tu peux continuer de mettre. potentiellement tu peux continuer de mettre des vidéos sans, avec des contenus sensibles sur YouTube.
La preuve, le clip juste... de Justin Bieber Baby est, ouais. est toujours en ligne
et,
hein,
Friday,
donc, et Friday de Rebecca Black est toujours là aussi donc,
il faut juste... ou Julo qui essaye Resident Evil 7 en réalité virtuelle, tu vois,
aussi,
ça, c'est,
ouais.
ça c'est toujours disponible toujours disponible aussi, mais le... en fait tu peux encore mettre des trucs touchy.
Tu rigoles, mais Resident Evil, ça doit faire partie des jeux où c'est plus monétisé, non ?
Ah, potentiellement, mais en attendant, les chutes de revenus sur YouTube pour les gros YouTubeurs jeux vidéo, elles sont drastiques. PewDiePie avait dit qu'un tiers, genre en début du mois d'avril, il avait dit qu'un tiers de ses vidéos s'était retrouvé démonétisé. Alors d'une, t'as la démonétisation de beaucoup de vidéos, et deux, celles qui sont encore monétisées, ce sont avec des campagnes de pub qui rapportent beaucoup moins d'argent.
PewDiePie, juste pour qu'on soit sûr, c'est comme François Fillon, il a jamais mis d'argent de côté pendant toutes ces années, donc il va pas commencer à se plaindre.
Non, mais c'est pas une question de. C'est
non,
pas
parce
une
qu'il y a un moment, hein, le petit Suédois là de 26 piges qui gagne des millions et tout. Moi, je suis pas jaloux, hein. Alors franchement, pas du tout, hein. Mais je pense que ça va quand même.
PewDiePie, je pense que son oseille,
voilà,
il l'a fait.
Il l'a, c'est bon.
Mais pour d'autres, enfin, il y en a même. Il y a même certains youtubeurs qui disent que ça va briser des carrières, etc. Parce que pour beaucoup, c'était le YouTube, c'était devenu une activité à plein temps. C'était leur métier. Et donc, si tu retires 90% de tes on te retire 90% de tes revenus, tu fais autre chose.
Ouais. En tout cas, tu parleras plus de World War II comme tu avais envie de le faire, malheureusement.
Et même pour Activision, en fait, ça a une conséquence aussi pour Activision, parce que on a vu l'importance qu'ils ont accordée aux youtubeurs ces dernières années, pas plus loin que la semaine dernière quand
ils ont envie que leur jeu soit sur YouTube, hein,
s'il
y a un truc qui démotive les youtubeurs d'utiliser leur jeu, ils vont être dégoûtés aussi,
voilà, quand World War II a été annoncé, qui présentait l'émission français à la fin,
des spécialistes de Call of Duty,
c'était des youtubeurs. Activision a tout intérêt à ce que son jeu continue, et d'autres éditeurs aussi, à ce qu'il continue d'être médiatisé à ce point-là sur YouTube. Je pense qu'il va y avoir des sortes de négociations à trois qui vont être faites, avec d'un côté les éditeurs de jeux qui ont besoin que leur jeu soit sur YouTube, les youtubeurs et les annonceurs. Et YouTube, donc à 4 finalement, 4 négociations à 4. Mais en tout cas, la situation va continuer d'évoluer et il va y avoir de gros changements.
Tout ça à cause de Call of Duty, je vous le dis. Dans quel monde on vit ?
Non, à cause de la base du problème, c'est PewDiePie qui s'est mis à raconter.
Alors, tout ça,
quoi,
c'est à cause de PewDiePie, salopard. Je plaisante. Non, des fois qu'il me fout un procès. Bon, bref. On va passer au troisième thème de la semaine maintenant. Ça n'a plus rien à voir avec la guerre, quoique.
Non.
C'est un peu la guerre aussi, mais la guerre sur PC cette fois. Pour tous les gens qui n'aiment pas l'idée d'avoir un gros PC monstrueux qui trônerait dans leur bureau ou dans leur salon, eh bien, il y a une solution qui est arrivée, une solution française.
Ouais, Cocorico.
Cocorico, absolument. Tu nous en avais déjà parlé il y a quelques mois. C'est le Shadowblade qui est donc un petit PC avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Hein,
alors,
Qu'est-ce que
c'est que le Shadowblade
Qu'est-ce que c'est? Parce que là, moi, je croyais que c'était ce petit PC qu'on voit là.
Ça peut être deux choses.
Ah.
Alors déjà, on revient sur le fait que ce soit français, 100% français, à tous les niveaux, hein, que ce soit le marketing, que ce soit même la construction, c'est monté en France, etc. Donc ça,
d'accord.
C'est plutôt pas mal. N'est-ce pas, oui. Et donc, Shadowblade, c'est deux choses. Alors le Shadowblade, c'est d'abord, comme tu disais, Plume, un boîtier. Donc un boîtier qui fait office de PC. Et en fait, le Shadowblade, c'est un service de cloud computing. C'est-à-dire que ça va émuler, entre guillemets, un PC. Sur un méta-serveur,
ouais.
Et ça va faire transiter les données sur ce petit boîtier et faire comme si en fait on contrôlait un PC mais à distance.
D'accord. C'est minuscule.
Mais c'est, ah oui, c'est minuscule. Oh, non, c'est pas si minuscule que ça. On va dire que c'est allez, en hauteur, ça fait la taille du boîtier.
D'un boîtier DVD.
Si, c'est minuscule par rapport à un PC classique, ah oui. Mais par rapport à un smartphone ou quoi, ça reste quand même beaucoup plus
mais
gros.
Donc dessus, t'as juste les prises USB. Alors, et les trucs pour brancher sur l'écran et dans le courant, et c'est
alors,
tout.
En fait, en gros, ça va être on le voit très bien pour les gens qui sont premium, la vidéo, on a deux ports USB, un casque, une prise micro.
Une prise Ethernet. Très importante d'ailleurs.
Mais évidemment, parce que ça va être l'essentiel. Et puis c'est tout. Il n'y a même pas de clé Wi-Fi en fait qui sera dedans, tout simplement pourquoi, parce que les créateurs de Blade veulent que les gens utilisent la fibre, en tout cas c'est avec la fibre que ça marche le mieux. Alors ça, je reviendrai en détail après. Alors pourquoi je disais que c'est deux parties bien distinctes,
c'est deux offres en fait, hein.
Deux offres en fait, t'as soit le boîtier. Donc le boîtier, tu vas payer une somme, alors je crois que c'est 5 euros, enfin en fait tu fais une avance.
C'est une location, non ?
Ouais, une location.
C'est comme la location de la box.
En échange, voilà, c'est exactement pareil. Ils donnent le boîtier et en plus de ça, vous payez un abonnement pour accéder au système. Mais si vous n'avez pas envie d'avoir cette box chez vous, vous pouvez très bien utiliser uniquement le logiciel Shadow, mm-hmm. qui peut s'appliquer pour le coup partout et même sur un Mac. C'est-à-dire qu'on peut par exemple avoir son, si on a déjà un Mac, pouvoir utiliser émuler un PC et avoir une config de PC monstrueux sur son Mac et donc jouer à tous les jeux PC sur Mac. On peut aussi faire.
Ah, t'es pas obligé d'avoir. Tu peux prendre que le service et pas la boîte.
Tu peux prendre que le service et pas la boîte. Et ça marche aussi évidemment. Il y a une vidéo qui tournait qui était assez marrante là-dessus, même sur leur site officiel, où on voyait un mec qui jouait un jeu sur son smartphone par exemple. Ça n'a aucun intérêt puisque c'était un jeu, un FPS en l'occurrence. Il joue à Overwatch, il me semble, sur smartphone. Donc voilà, ça avait aucun intérêt, mais c'est pour montrer que c'est possible. On peut aussi faire ça sur une tablette, enfin tout système Android.
Alors, explique bien aux gens quand même le cloud computing, du coup. Alors, qu'est-ce que c'est en fait?
Bah, en fait, le cloud computing, on a des méta-serveurs qui sont basés en France. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on a une configuration qu'on va pouvoir
louer. Que ton PC, il est plus dans ton salon.
Voilà,
ton PC, il est à distance.
Exactement.
Et la puissance de calcul est faite à distance.
Et transite par la connexion Internet.
Voilà. Donc t'as pas besoin d'avoir une méga carte graphique, une méga machin dans ta petite boîte.
En fait, dans la boîte, il y a strictement rien si ce n'est un
processeur. Il y a GTX 1070 apparemment.
Il y a en fait dans la box en elle-même, il y a un processeur AMD. Voilà, bah c'est faut bien faire tourner la box. Hein, et puis il y a un ventilo pour
Mais c'est dans le PC distant qu'il y a GeForce.
PC distant, ils ont il me semble plusieurs milliers. Donc il y a des, alors la configuration de base c'est une GTX 1070, donc une carte graphique haut de gamme, processeur Xeon 6, 12 Go de RAM et un SSD de 256 Go, et tout ça tourne sur Windows 10. Donc voilà, en fait on loue un PC à distance, tout simplement.
Ouais, tu loues le PC qui est loin, et toi, tu as juste ta petite box qui balance le signal vidéo.
C'est du streaming, en fait, de PC. Tu streams ton PC, tout simplement.
Voilà, parce que
sauf que...
Tu peux streamer des séries, des jeux, etc., mais là, tu streams carrément ton Windows, quoi.
Voilà,
en fait.
Exactement. Et tu as accès, tu peux faire exactement la même chose. J'ai vu comment ça marchait. Tu peux faire exactement la même chose qu'un PC. Strictement aucune différence, comme si tu avais le PC chez toi. Ça ne change strictement rien. Par contre, là, je vais revenir là-dessus, parce que c'est quand même une notion assez importante et non des moindres, c'est la connexion Internet. Pour faire marcher le système dans son intégralité et dans les meilleures conditions, donc quand je dis dans les meilleures conditions, c'est pour faire tourner les jeux en ultra, il va falloir compter sur une fibre à minimum 15 et 20 mégas. Donc c'est quand même une belle fibre. On peut aussi évidemment faire tourner le système avec la DSL, mais si on a que
la fibre, c'est beaucoup plus que ça.
Non, mais après, c'est
effectivement minimum. Hein. Il faut minimum.
Non, mais
en fibre,
là, quand t'es en fibre, c'est.
Ah non, non, non,
c'est
ça dépend si c'est une fibre coaxiale ou pas. Il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs offres. Donc ça dépend. Et ça peut marcher aussi en ADSL de 5 à 7
coaxial,
mégas.
Moi, avec Numericap, j'étais à 100 déjà. Donc
oui, bien sûr. Mais après, ça dépend aussi où tu habites en France. Il y a des gens qui ont la fibre, qui ont une très mauvaise fibre. Ça s'appelait pas encore la fibre. C'est un autre nom encore. Il y a plusieurs offres comme ça sur, pour l'instant, qui existent. Et malheureusement, d'ailleurs, c'est un des gros... j'en parlais avec le fondateur la dernière fois. C'était il y a plusieurs mois de ce sujet. J'ai expliqué, oui, mais en France, le problème, c'est qu'on n'a pas tous la fibre. On n'a pas tous une super connexion Internet. Et loin de là, puisque même certaines communes qui n'ont même pas la DSL encore en France. Donc voilà, je vous laisse imaginer un peu l'état du réseau. Pour autant, la bonne nouvelle, c'est que la France a lancé depuis un an une grosse campagne politique là-dessus.
Ouais.
Ils veulent fibrer tout le territoire d'ici 2020 ou 2022, je ne sais plus. Et donc du coup, à terme, voilà, tout le territoire français sera fibré. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Mais alors, tu disais le minimum, c'est 20 mégas, c'est ça?
Le minimum pour jouir des possibilités du logiciel dans les meilleures conditions. C'est-à-dire pour faire tourner ces jeux en ultra, etc., pour que ce soit streamé en ultra, faire de la 4K, etc. Mais on peut très bien utiliser le service avec du 5 à 7 mégas en ADSL. Par contre, il faudra évidemment faire des concessions, donc baisser les configurations du jeu, jouer en médium ou en.
Mais alors, toi, tu as eu l'occasion de le tester? Et sur une
Exactement.
Bonne connexion, j'imagine qu'ils te l'ont fait tester sur une bonne connexion.
On peut,
T'as joué ou pas?
Non, j'ai pas joué moi personnellement, mais.
D'accord, on va pouvoir faire ça quand on en recevra
un
autre exemplaire de test.
On va une box et vous inquiétez pas, je vous ferai un
parce
test.
Parce que il y a des jeux, par exemple, là tout à l'heure en début de podcast, on parlait de Quake Tournament, il s'appelle
Champions.
Champions.
Quake Champions.
Quake Champions, qui est un FFPS, un fast FPS, est-ce qu'on va pouvoir jouer à des jeux comme ça où genre la, ouais, chaque
parce qu'il y a des problèmes de histoire de lag, de ping.
Parce qu'il y a forcément même un tout petit lag. Parce qu'en gros, quand tu appuies sur O sur ta manette oui. ou sur le bouton A de ton clavier, la commande part dans le serveur et ça revient. Alors et l'image revient chez toi. Donc
le temps de latence c'est de, il me semble, 4 microsecondes, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très peu. Et en plus de ça, ça a été testé en long et en large à travers avec des équipes de e-sport qui ont testé ça sur Overwatch, qui ont testé ça sur Street Fighter 5. Et il n'y a
problème.
Aucun problème, c'est invisible, la latence est invisible. Donc on, vraiment, il faut vraiment avoir une calculatrice dans la tête, être bionique pour voir une différence, sinon c'est strictement impossible.
L'homme qui valait 3 milliards pourrait voir la différence.
Exactement, mais sinon, sinon c'est pas possible. Et alors le gros point fort de ce service, c'est que du coup on peut avoir un PC gaming pour finalement on paye
29€ par mois, c'est voilà, ça. Tu peux nous dire un petit peu les différentes offres, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs paliers.
Il y a trois offres différentes, il y a soit 29,95€ par mois avec un engagement minimum d'un an, soit 34,95€, donc là c'est 3 mois d'engagement minimum, ou soit 44,95€, donc ça c'est par mois sans engagement.
D'accord, mais c'est le même service.
Mais c'est le même service.
C'est juste une question d'engagement.
Exactement, et si on prend donc l'engagement par exemple sur un an, ça nous revient à un PC à environ 350€, un PC haut de gamme 350€ par an.
Ça comprend pas la location du boîtier là.
Ça comprend pas la location du boîtier, mais la location du boîtier est vraiment infime, c'est l'ordre de 5€.
Et puis du moment que t'as un PC même merdique chez toi,
tu peux
l'utiliser à la place du boîtier en fait.
Que t'aies un Mac, que t'aies un PC,
ton Mac,
tu peux tout faire.
Même avec ton Mac,
ça j'ai un nouveau Mac maintenant.
Ça marche sur
un truc de compète.
Ça marche sur Android et
c'est tous les 10 ans moi.
Voilà. Ça marche sur Android.
Mais moi tu vois, moi ça me fait me poser une question. Parce que ça soulève de nouvelles problématiques, par exemple en termes de sauvegarde de tes fichiers.
Et bien justement, j'ai posé la question.
On parle de jeux évidemment, mais pour certaines personnes vont l'utiliser
vont aller sur les sites porno
leur boulot au quotidien, faire des montages photos, écrire des fichiers texte, etc. Donc tout est sauvegardé à distance.
Alors j'ai posé toutes ces questions. Alors déjà première chose, tout est sauvegardé à distance, mais tout est sauvegardé à distance en France. Donc du coup sous la législation du droit français, ce qui fait que finalement les données qui seront sauvegardées sur ces métaserveurs seront plus en sécurité sur ces métaserveurs que finalement sur votre propre ordinateur qui peut être beaucoup plus moins à l'abri des virus et autres types de hacks.
Oui, parce que justement, je pensais à ça. T'as ton abonnement, machin, tu vas sur YouPorn, il y a un truc qui s'affiche, tu cliques dessus, ça installe des...
Bah tu leur pourris leur réseau à distance.
Ouais, en fait, à distance, tu peux pourrir l'ordinateur de virus, etc.
En fait, ça va pas pourrir le métaserveur parce qu'il est ultra protégé, ça va juste pourrir le disque dur qui vous est alloué, finalement. Et encore une fois, pour rebondir sur ce que tu disais, Romain, il y aura un service de maintenance qui sera disponible H24, donc même très tard la nuit tu pourras faire une demande sur leur site et ils seront là pour résoudre le problème. Et normalement en quelques minutes ou quelques heures maximum, ils peuvent te rebooter le PC complètement et te relancer une session propre, nette, comme elle était auparavant. Sans
ça, c'est génial, parce que si tu veux mon avis, enfin tu le connais mon avis, le gros problème des PC c'est que c'est tout le temps en panne, que ça ralentit tout le temps, que au bout d'un moment ça déconne, etc. Là c'est fini ça, finalement.
Quand t'achètes un PC à 500€, oui, mais si tu payes un PC
je sais, toi t'as jamais de problème avec ton PC,
mais moi j'ai jamais eu de problème.
T'es bien le seul au monde, hein.
Non ça m'arrive de temps en temps, mais c'est pas les trucs
non plus. Il me semble pas que Poufy non plus ait de problème,
parce que peut-être vous
niveau-là.
Êtes des power users et que vous pouvez les régler vos problèmes, genre tu dis tiens c'est bizarre ce truc, je vais enlever les pérates de RAM et les remettre par exemple. Je vais voir si quand j'en mets qu'une seule et machin, enfin vous faites des tests.
Non mais moi je vais pas sur les sites cochons comme toi, Julo, c'est pour ça aussi. Hein. C'est pas parce que je vois écrit Svetlana, etc., veut faire des trucs avec toi ce soir que je vais cliquer dessus.
Mais le problème c'est qu'il y a aussi plein de gens qui font qui font un peu n'importe quoi dans le sens où ils font pas attention.
Mais là, mon PC à la rédac, excuse-moi. Je vais pas sur YouPorn, hein, sinon mes voisins le sauraient. Et je fais pas de saloperie. Et mon PC,
c'est
par exemple, là il y a tous mes ports USB qui déconnent. Toutes les 10 secondes, il y a mon PC qui me fait chtiling. On n'a pas reconnu le truc, mais j'ai rien branché. Tiling, on n'a pas reconnu le truc, j'ai rien branché.
C'est pas un PC haut de gamme.
Bah c'est pas un PC haut de gamme, non.
Même très loin, à mon avis, d'être un PC haut de gamme.
On est très loin.
Non mais d'accord, mais coup. Mais je veux dire, ok. Vous allez avoir réponse à tout. Un PC,
non,
ça déconne
souvent
quand même.
Oui,
mais bien sûr,
toi,
c'est fait pour planter un PC.
Tu utilises ton PC normalement tous les jours et d'un seul coup, t'as un écran bleu qui arrive, qui te demande de redémarrer en mode sans échec, alors que t'as rien fait, t'as rien fait.
Là, quelque part, il y a quelqu'un qui s'occupe à distance de ton PC. Et si t'as un problème, tu fais oh mec, ça marche pas là. Et là, il y a un mec, le truc dont tout le monde rêve, parce qu'on a tous un PC qui déconne, et tu voudrais faire oh, et mec, il y a mon PC qui déconne.
Et puis le gros,
là, tu peux le faire.
Le gros point fort de ça, c'est qu'en plus, la configuration va être évolutive. C'est-à-dire que je m'explique, mettons que dans un an, il y a une nouvelle génération de cartes graphiques Nvidia. Alors pour l'instant, ils ont un accord avec Nvidia, mais ils auront aussi un accord avec AMD normalement un peu plus tard. Mettons que voilà, il y a une nouvelle génération qui sort, et bien ils vont la remplacer gratuitement à configuration égale. Par exemple, si, alors je dis une bêtise, mais s'il y a une 2070 qui sort l'année prochaine, ils vont remplacer les 1070 par une 2070.
D'accord.
Mais si vous comptez rester sur 1070 parce qu'elle vous correspond parfaitement, et ben ils vont faire un rabais sur l'abonnement. Ils vont par exemple vous retirer 5 euros, vous paierez 25 euros au lieu de 29. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. Et vous aurez aussi accès à une configuration plus élevée si vous le souhaitez. Parce que si quelqu'un dit ah ben non, une 1070 ça me va pas, moi je veux encore plus puissant, je veux une 1080, et bien vous allez payer 4 ou 5 euros en plus et vous aurez une 1080. Pareil,
tu peux choisir,
moduler ta configuration comme tu l'entends. Pareil pour le disque dur, parce que tu me diras 256 Go SSD, c'est pas énorme, mais on pourra, voilà, pour quelques euros avoir un disque dur ou un SSD supplémentaire.
Mais alors justement pour les jeux, si c'est un PC qui est à distance, est-ce qu'il y a des restrictions au niveau des, comment dire, de l'affichage, du taux de rafraîchissement,
déjà,
ce genre de choses?
J'ai revenir là-dessus, déjà rien que pour parler du jeu en lui-même, par exemple pour les installations ce sera encore plus rapide, puisqu'on partira de la source en fait. On n'aura pas un serveur qui va nous envoyer, ça sera directement de serveur à serveur. Donc on va avoir directement la source, donc le téléchargement sera beaucoup plus rapide. Donc on aura son jeu, on m'a montré l'exemple, on peut télécharger un jeu vraiment en quelques minutes, même pas. Bon, vous me direz, c'est déjà le cas quand on a une grosse fibre, mais bon. Là c'est plutôt pas mal. Sinon, pour revenir sur ta question, exactement, c'était sur...
Est-ce qu'il y a des limitations visuelles?
Eh bien
par
non, il n'y a aucune limite visuelle, si ce n'est ta connexion internet. C'est-à-dire que, comme je disais, si tu as une connexion qui est un peu défaillante ou qui n'est pas à la fibre, tu devras faire quelques concessions sur ton jeu. Par exemple, si tu fais tourner The Witcher, au lieu de tourner en ultra, tu feras tourner le tout en medium ou en low.
D'accord.
Mais,
je crois que je vois que c'est écrit à l'écran pour les premium d'ailleurs. On peut aller jusqu'en 4K.
Exactement.
Et si on a un écran 1080p 144Hz, ben on peut en profiter de cette façon.
Tu peux faire tourner la 4K. C'est pour ça que.
On est en train de voir que c'est du DisplayPort, hein. C'est pas du HDMI. Il faut un adaptateur pour le HDMI.
De toute façon, l'utilisation des ports USB va finalement être très peu utilisée, à part pour brancher
clavier souris et manette.
Clavier souris et basta, parce que sinon tout le reste va transiter par le serveur, et donc du coup.
Je parlais du DisplayPort.
Oui.
Bah, c'est pas un truc commun quand même.
Bah, DisplayPort, c'est la nouvelle connectique de tous les écrans maintenant haut de gamme. C'est du DisplayPort.
Tous les écrans de gamme, ils sont
tous les nouveaux écrans, ils ont
les écrans PC,
un port DisplayPort. C'est fini, le HDMI qui est en train de disparaître, et le VGA, n'en parlons pas. Voilà.
Non, le VGA, évidemment, ouais, mais.
Le HDMI, c'est fini.
Voilà. Non, c'est pas fini.
C'est fini pour les écrans
PC haut de gamme.
C'est foutu.
Mais
ça
sur PC, maintenant, c'est le DisplayPort qui prime.
Ça apporte quoi par rapport au HDMI, le DisplayPort?
C'est une transition des images et du son plus rapide et voilà.
D'accord. Aimé. Même avec les dernières normes HDMI, c'est
alors ça, je pourrais pas te dire, mais en tout cas, pour l'instant, c'est la norme qui semble, enfin, démocratiser. C'est ce qui semble le plus efficace
pour les PC.
Pour les PC.
Mais Camille, sinon, il n'y a pas un autre risque de ce système? Par exemple, là tu disais qu'il y a 1000 machines à distance ou je sais pas quoi.
Plus,
admettons que le service cartonne, qu'il y ait énormément de gens qui s'abonnent à ce truc là, ça risque pas de faire saturer les serveurs?
Justement, non, parce qu'en fait ils comptent, alors là pour l'instant le serveur sont à Marcoussis et ça a une portée de 1000 km. Et donc du coup ça peut desservir la Belgique, la Suisse et une partie du sud de l'Angleterre. Mais très bientôt, quand ils vont ouvrir leurs services justement aux pays étrangers, dont l'Allemagne et dont l'Angleterre, dont le Luxembourg, ils vont ouvrir d'autres méta-serveurs en fait ailleurs. Il y en aura un qui sera normalement à l'est de l'Allemagne, un qui va être en Angleterre. Et donc du coup tout va être séparé. Et pareil en France, ils comptent aussi en ouvrir un peut-être dans le sud, si jamais il y a trop d'utilisateurs simultané.
Vaut mieux pour eux que ça commence lentement quand même, quoi.
Voilà. Mais pour l'instant, ça part plutôt bien. Ils ont, alors évidemment, ils m'ont pas donné tous les détails, mais ils ont commencé à faire des partenariats avec Nvidia, des partenariats avec AMD, avec de gros éditeurs qui commencent à être intéressés à ça. C'est vrai que c'est quand même assez révolutionnaire dans la forme du cloud. Il y a quelques années, c'était cloud gaming et ça a vraiment pas marché, ça a pas beaucoup décollé. Et là, c'est un tout autre niveau. C'est vraiment le cloud computing, donc plus haut comme tu disais, Julo. Énormément de problèmes qui sont rayés de la liste. Et puis surtout, le gros point fort pour les gamers, cette évolution constante. d'évolution constante de la configuration qui nous est allouée. Et en plus de ça, surtout le point de vue pécunier qui est quand même beaucoup plus amorti, c'est-à-dire que quand même 350€ par an
plutôt que 2000 d'un seul coup.
Ouais, par contre, t'as intérêt à avoir un opérateur qui est pas souvent en panne chez toi, quoi.
T'as intérêt, oui.
C'est quand même le défaut du truc, c'est que
c'est ça. Moi, c'est la seule problématique pour l'instant. Le seul point que j'ai à mettre là-dessus négatif, c'est vraiment pour l'instant la configuration. Même s'ils n'ont pas mis une carte SD à l'intérieur du boîtier, on peut en rajouter une, vous savez, mais on peut acheter des clés USB finalement qui sont Wi-Fi, on peut donc se connecter avec ça, et ça marche finalement aussi. On m'a montré l'essai.
T'as un mode hors ligne, c'est ça que tu veux dire?
Non, je dis pas ça.
Si tu achètes des dongles USB qui peuvent être en Wi-Fi.
Qu'il n'y a pas de clé Wi-Fi dans le boîtier, mais tu peux en acheter une, la rajouter, ça marche aussi bien en Wi-Fi. Alors ça ne sert pas optimal.
Moi je parlais des coupures, moi.
Ça me faisait rebondir là-dessus parce qu'après j'allais oublier. Donc oui, le Wi-Fi, j'ai vu ça marchait d'ailleurs sur un Mac et ça marchait bien en Wi-Fi. Et sinon pour les coupures, oui, c'est le seul point.
T'as pas quand même un disque dur interne avec une recopie des documents ou des choses comme ça?
Non, par contre, tu peux brancher via le port USB un disque dur.
Ça serait bien que tu aies un mode hors ligne, quoi. Genre un petit disque dur interne juste pour les documents, peut-être pas les jeux.
Parce que c'est ça, en fait. Admettons, tu t'abonnes pendant 2 ans, tu utilises ton PC à distance comme tu utilises n'importe quel PC. D'un seul coup, tu dis j'en ai marre de ces trucs-là. Comment tu fais pour récupérer tous tes fichiers?
Tu peux le brancher en USB sur ça, là.
Oui, tu branches un disque dur là-dessus, tu récupères tes données.
Tout simplement.
Ah oui, voilà. C'est aussi simple que ça.
Donc c'est un service qui sera quand même d'avenir, puisque comme disait, la fibre se démocratise de plus en plus en France, mais elle est déjà bien implantée en Allemagne et en Angleterre. Et donc du coup, c'est un service qui peut potentiellement, alors, peut-être pas remplacer le PC traditionnel, mais en tout cas faire une grosse marge là-dessus et peut-être jouer à du 50-50 dans les années à venir.
Voilà. Très bien. Ça vous intéresse, Romain et Julot, ce genre de choses, vous qui n'avez pas de PC, qui ne prévoyez pas de jouer à Football Manager ou de jouer avec des jeux avec des dragons et des chevaliers?
Moi, comme Julo, j'utilise un Mac et je suis très, très satisfait de mon Mac parce que, plus, comme je suis un joueur console exclusivement, j'ai ce qu'il faut pour jouer, et ce que mon Mac permet de faire, il le fait très bien. Après, si un jeu à une exclusivité PC sort vraiment magnifique qui me fait de l'œil, ce genre de choses pourrait me servir pour une utilisation ponctuelle, tu vois, par exemple prendre un abonnement d'un mois de temps en temps pour pouvoir faire un jeu en particulier, un jeu très très gourmand en technologie, etc. Mais ça, c'est ce que je te dis, ça c'est maintenant. Ça se trouve, dans 2 ans, mon Mac sera à genoux et j'aurai besoin d'un nouveau Mac.
Mais c'est vous qui êtes à genoux.
C'est de la vôtre. Et je vais jouer, j'aurais peut-être besoin de nouveaux matos puissants que j'aurais pas les moyens de me payer sur l'instant. Et là, à partir de là, un service comme ça peut être intéressant. Mais là, tout de suite, au jour J, j'en ai pas besoin.
Mais ce qui est bien aussi, c'est que du coup, tu peux faire marcher ton compte un peu partout. C'est-à-dire que si tu utilises principalement sur ton PC, et puis que, je sais pas, tu pars en vacances, t'as pas envie de prendre ton Mac ou n'importe quoi, tu veux justement jouir d'un jeu PC sur ta tablette.
En vacances, t'as rarement la fibre.
De quoi ?
En vacances, t'as rarement
la
fibre.
Oui, mais tu peux très bien avoir la Wi-Fi.
Un Wi-Fi assez puissant pour faire ça.
Avec le Wi-Fi, on m'a assuré qu'on pouvait faire tourner certains jeux en médium. Et donc, du coup, tu peux quand même avoir la possibilité de jouer.
Oui, après, des fois, t'es pas obligé d'avoir le jeu à fond.
Mais tu peux aussi ouvrir ton. Enfin, je veux dire, avec ton iPad, par exemple, tu peux simuler ton Windows aussi, du coup.
Oui, c'est ce que je dis.
Tu peux aussi écrire tes articles.
Tu peux tout faire.
Ça c'est rêve.
Tout ce qui est sur
Android. Non mais accéder à tes documents,
pouvoir continuer à bosser
Piloter depuis ta tablette,
lancer Steam, lancer le jeu,
tu peux tout faire sur ta tablette. Après, il suffit de brancher un clavier en Bluetooth et puis hop, c'est parti, t'as un PC, quoi.
Eh bien, ça a l'air prometteur, hein, dit comme ça.
Très prometteur. Honnêtement, j'y croyais pas forcément il y a plusieurs mois quand on voyait pas vraiment la chose tourner. Mais maintenant que j'ai vu vraiment de mes yeux le truc tourner, et sur Mac et sur tablette, etc., je me dis putain, ça a vraiment de la gueule.
Bon. Bah écoute, on va recevoir un boîtier Shadow dans très peu de temps.
Tu nous feras une petite démo en vidéo, Camille, comme ça tout le monde comprendra un peu mieux et on pourra voir la petite boîte là qui a pas l'air trop moche d'ailleurs.
Ouais.
Et en plus, le design qu'on peut voir actuellement, c'est pas le design définitif.
Ah bon ?
Non, le design définitif est plutôt pas mal. Ça fait moins plastoc en fait.
Alors attends, une dernière question. Quand tu allumes ce truc-là, t'as quoi ? C'est un logiciel propriétaire qui s'active automatiquement ?
Non, en fait, tu l'allumes et directement.
C'est comme si t'allumais un PC.
Voilà, ça te lance le service, quoi.
D'accord.
Et donc, ça sent le futur, tout ça. Hein.
Bon. 30€ par mois.
Ouais. Bon, bah écoutez. en parlant de futur, on va passer à la suite du podcast.
Non.
Eh bien si. Eh bien si, Julo. Nous allons parler des autres tests de la semaine avant de passer aux actus en vrac.
Ah oui, il y a eu quelques tests cette semaine. C'était assez pauvre en tests, mais on avait quand même, on était en retard sur 2-3 trucs.
Ah bon ?
En l'occurrence, The Franz Kafka Video Game, on voulait absolument le tester parce que moi, l'un de mes bouquins préférés, c'est La Métamorphose de Kafka. J'ai été vachement marqué par ce bouquin.
Moi, un de mes films préférés, c'est Le Procès d'Orson Welles de Kafka.
Oui, oui, oui. Donc, Franz Kafka Video Game, c'est un jeu sur la vie de Franz Kafka. Pas exactement, d'ailleurs, en fait. C'était censé s'inspirer beaucoup de ses bouquins, de l'ambiance de ses bouquins. Finalement, on n'a pas besoin du tout d'avoir, d'être fan de Kafka, d'avoir lu ses bouquins, etc. C'est un jeu d'aventure qui profite voilà, d'énigmes kafkaïennes, certes. Mais ça s'arrête là, c'est pas mal. Thomas lui a mis 6, satisfaisant.
Avec un super titre, coucou, tu veux voir Magritte.
Voilà. Ouais, tout à fait. il est très fort pour les titres, le
ouais,
petit Thomas.
C'est vrai.
The Lion Song épisode 3, c'est toi qui l'as testé, ouais. Plumeau, tu lui as mis 7. Ça te convainc
c'est
toujours autant.
Toujours aussi.
J'adore le design de ce jeu.
En fait, le truc avec The Lion Song, c'est que c'est pas un truc qui tape à l'œil. C'est pas un jeu qui vous agresse. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous détendre pendant une heure.
Et mais c'est narratif et c'est intelligent. C'est,
exactement.
Voilà, c'est bon, ça.
Ça demande pas de grandes capacités. Capacité cognitive pour avancer, pour les décisions qu'on va prendre, mais c'est tellement doux, c'est tellement agréable d'avoir autre chose en main que quelque chose qui fait pom pom boum boum.
Le visuel bichromique et tout ça aussi, j'adore un peu.
Il y a une identité, il y a une élégance. Voilà, j'utilise toujours le mot élégant pour ce jeu depuis le premier épisode.
Fuyez si vous détestez les expériences narratives sans gameplay, comme on dit. Je déteste quand on dit ça, mais bon, bref. Johnny Wen nous a également testé un jeu en import cette semaine. C'était Musso Stars, qui s'appellera Warriors j'ai déjà oublié. Warriors All Stars en France. Donc en gros c'est un Dynasty Warriors like, mais avec tous les héros de Koei Tecmo, genre de toutes les séries.
Ninja
Gaiden,
Dead or Alive,
il y a même Tukiden. Bref, ça mélange tout, donc ça partait d'un bon principe,
d'un bon sentiment,
surtout quand on est comme Joey Wan un peu fan de tout ça. T'as même
les ateliers,
sauf qu'en fait c'était assez décevant. Johnny Wan lui a mis 5 sur 10 moyen, parce que il n'était pas aussi intéressant justement dans son mélange de genre que ce que promettait la jaquette. Voilà,
ça reste un museau un peu lambda.
C'est un museau un peu pas terrible en fait.
Comme tous les museaux, c'est placide, je trouve.
De toute façon, je déteste les museaux, mais bon, chacun son truc. On aurait adoré vous parler de Prey, parce que Prey sort cette semaine, mais vous connaissez la politique de Bethesda, peut-être, on en a déjà parlé, on va le redire. Bethesda a une nouvelle politique, enfin nouvelle.
Ça fait un an qu'il l'applique.
Ça fait depuis un an maintenant. C'est qu'il n'envoie plus les jeux à la presse
que la veille
avant
de
la sortie
du jeu.
Voilà, seulement à la veille de la sortie. Donc on l'a reçu, pour tout vous dire. Aujourd'hui, on enregistre le podcast ce jeudi.
Exactement. Jeudi 4 avril.
Alors que le jeu sort vendredi, et que donc vous aurez le test en retard. Toutes nos excuses. Mais
je vais quand même essayer d'aller vite.
C'est plus le Ketsu, il va tester le truc à la vitesse de la lumière.
Je peux vous en parler très vite. Ça s'annonce vraiment chouette, mais pas ce que j'imaginais.
Tu veux dire en termes de qualité
que, non, en termes de difficulté.
Ah, c'est super dur.
Oui.
Ah,
oui,
merde.
C'est beaucoup plus survie que ce que je pensais. Beaucoup moins FPS et beaucoup moins infiltration et beaucoup moins RPG. D'accord. Surtout beaucoup survie.
Ouais, la première prise en main que j'avais faite, je m'étais retrouvé plusieurs fois dans des situations où les ennemis sont nombreux et agressifs, et c'est vrai que t'es pas forcément équipé pour.
Si t'as,
au début du jeu,
si t'as plusieurs mimiques, c'est compliqué. Si t'affrontes un Typhoon, qui est la version un peu plus grosse, là c'est pareil, c'est très compliqué. Et t'as pas forcément les armes qu'il faut pour.
Après ça va peut-être venir.
Oui.
En augmentant
ta capacité
et ta puissance.
Mais voilà. Bref.
Et on vous parlera aussi de Outlast 2 la semaine prochaine. On est un peu en retard sur Outlast 2. Toutes nos excuses, encore une fois. Ça arrive, le test arrive.
Cette
vite.
Fois, c'est Johnny Wan qui s'en occupe. Et...
Ce sera même pour la fin de semaine. Au moment où vous verrez ce podcast, il sera certainement publié le test.
Et Johnny Wan, c'est un dur, à mon avis. Il a dû. À mon avis, c'est lui qui a fait peur au jeu.
Voilà, voilà.
Voilà. Bon, ça c'était pour les tests. On va faire un petit peu de reste de l'actu en vrac.
Très très vite alors.
Très vite, messieurs. Bon, on va commencer avec la fuite qui a été confirmée cette semaine. Fuite le matin sur Amazon de Darksiders 3. Premières images. On a quasiment la date de sortie. Bon, après c'est un placeholder hein, au 31 décembre 2018. On sait plusieurs détails dès le matin. C'est une nouvelle héroïne qui s'appelle Fury, qui est la frangine des Cavaliers de l'Apocalypse, qui est une mage avec qui se bat avec un fouet.
T'as dit le mot Darksiders 3 depuis le départ ou pas?
Ouais, ouais, je l'ai dit. Oui.
Ah, je pensais qu'on était toujours dans... Non.
Non.
J'ai pas c'est vrai, bon, je l'ai entendu.
Donc on parle moi de Darksiders 3.
Moi aussi je l'ai entendu, hein, je te signale. Hein.
Ok, bah moi j'ai entendu.
Moi non plus,
je...
bon, en fait j'en sais rien. C'est tout. Et bref, et donc l'après-midi c'est confirmé. Premier trailer grâce à IGN de Darksiders 3. Un trailer plutôt joli.
Bah, qui... Moi je trouve qu'il y a un changement de design, tu m'as dit que non.
Mais absolument
moi,
pas.
Je trouve que
mais
c'est t'as, identique t'as, à Darksiders 1 et 2.
Julo, t'as pété un câble, je
d'accord,
te jure.
D'accord.
Ils ont absolument rien changé, tu reconnais War immédiatement.
Non, mais je parle pas du design des persos et tout ça, mais ça fait quand même plus cartoon qu'avant, non?
Ça a toujours été cartoon. Hein.
Non, mais à ce point-là.
C'est un dessinateur de cartoon d'ailleurs, qui, de comics. Hein,
de
qui
comics, ouais. Ça faisait plus comics et moins cartoon, je trouve, avant. Enfin bref.
Bon, ça se trouve, vraiment,
c'est qu'une très très similaire.
Ouais, ça ressemble beaucoup.
Mais moi, de toute façon, aujourd'hui, je dis des conneries.
Ouais.
Ça vous dérange
pas? Ça, j'ai remarqué. Non.
Non. Okay.
Grosse hype en tout cas, hein, visiblement l'internet est plutôt content de voir Darksiders 3 arriver, donc édité par THQ Nordic, qui arrivera en 2018. On n'a pas de date précise pour l'instant. Toujours est-il que vous pouvez le voir à l'écran.
Bah, Fury... Les fans de cette série doivent être contents parce qu'ils pensaient que c'était mort. Hein, que c'était
ah bah après la mort de THQ, oui, il y avait de quoi imaginer.
Donc, bah, voilà. Étonné quand même qu'on n'incarne pas un autre des cavaliers.
Ça, on ne sait pas pour l'instant.
Mon bon monsieur, hein, c'est comme ça. Il faut mettre des femmes maintenant. Vous savez, hein, c'est comme ça. Donc on jouera une jeune femme rousse avec un fouet.
Très bien.
Une objection?
Non.
Bon,
aucune.
Alors
allez,
ça suffit.
On passe à la suite.
On passe à la
suite. On avait dit vite.
Bon, on va faire très vite. Julo, dans l'actu de la semaine, il y a aussi Overwatch qui continue de cartonner. Alors là.
Alors Overwatch, c'est dingue. On parlait tout à l'heure d'Overwatch pendant le premier thème de ce podcast. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont passés à, ça y est, 30 millions de joueurs.
30 millions d'amis même.
Ouais, 30 millions d'amis d'Overwatch qui se fraguent la gueule à longueur de journée. C'est énorme quand même. Ce succès est impressionnant. Pour vous faire un peu le déroulé, en juin 2016, ils étaient déjà à 10 millions. Ils sont passés à 20 millions en octobre, quelques mois après. En janvier dernier, 25. Et là, bim, 30. Ça ne fait qu'augmenter. Ce jeu profite de ses qualités pour véhiculer...
qualité,
bouche à oreille,
entretien,
voilà,
Blizzard.
Qui fait qu'il y a toujours de plus en plus
de
joueurs.
World of Warcraft,
ouais, ouais, mais c'est Blizzard, c'est la magie Blizzard.
Voilà. Ensuite, l'autre actualité de la semaine, c'est Shadow of the Tomb Raider qui ne sera pas à l'E3, mon cher Romain. Et d'ailleurs, il y a autre chose qui ne sera pas à l'E3.
Non, alors c'est Shadow of the Tomb Raider qui a fuité il y a quand même un certain temps maintenant.
Grâce au métro Montréalais.
Une fanpage officielle hein, de Tomb Raider a questionné la community manager de Eidos, il me semble, au
Meghan
sujet
Marie
de... Meghan Marie, ouais.
D'accord,
au sujet de...
j'aime bien Meghan Marie, c'est pour ça.
Au sujet de la possible présence de Rise of the Tomb Raider à l'E3. Shadow of the Tomb Raider à l'E3. Et Meghan Murray a répondu que Lara se ferait très discrète à l'E3 cette année et que ses prochaines aventures, donc Shadow of the Tomb Raider, sera annoncée plus tard dans l'année. Et l'autre absent de cette E3, ce sera Oculus, qui avait un stand l'année dernière.
Mais qui a toujours des stands partout.
Et qui n'a pas de stand cette année, et qui préfère se concentrer sur des annonces tout au long de l'année. Voilà.
Wow, ça fait bizarre, non? Quand vous allez à l'E3, pas avoir le stand Oculus.
Après, c'est vrai que quand j'avais vu le plan du salon, j'avais remarqué que le spot qui était occupé par Oculus l'année dernière n'avait pas encore de marque associée cette année. Donc je me suis dit peut-être que c'est juste qu'ils se sont pas encore déclarés.
Un stand de saucisse.
On ne sait pas.
Peut-être que ce sera Devolver qui va faire venir justement son stand.
Ça serait pratique qu'il soit à l'intérieur cette fois. Mais...
Son camion avec ses chipolatas et ses bières, hein, se trouve.
En tout cas, pas d'Oculus à l'E3 cette année. Après, il est possible que des jeux tournant sur Oculus Rift soient présentés sur d'autres stands, mais en tout cas, leur propre stand à eux ne l'auront pas. Voilà.
Surprenant. L'actu de la semaine, c'est aussi PlayerUnknown's Battleground. Vous savez, le Battle Royale de Steam qui continue de cartonner. Encore une fois, là, les chiffres gonflent. On était à 1 million il y a encore quelques semaines. Le jeu est sorti le 23 mars en accès anticipé. C'est un jeu qui n'est même pas fini. Hein. Et pourtant, le nombre de personnes qui y jouent ne cesse de croître. On en est à 2 millions maintenant, 2 millions de ventes précédente sur Steam pour ce jeu qu'on avait pu essayer devant vous avec la petite Eve, notre petite community manager, et dans lequel on était mort grotesquement. Et bah voilà, ça continue encore une fois pour ce, ce jeu plutôt intéressant. Même si, de l'avis de spécialistes, les modes de H1Z1 ou d'autres jeux qui font exactement la même chose sont plus élaborés. Mais bon, le succès ne s'explique pas des fois. Autre actu cette semaine, ça concerne un de tes studios préférés.
Remedy Entertainment.
Oui, bien vu, bravo. Putain.
Et alors effectivement, ils ont annoncé que... Alors vous savez, hein, on l'avait newsé sur Gameblog, c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais bah, c'est logique. Le prochain jeu de Remedy sortira également sur PS4. PS4,
ça
PC,
Xbox
One. Ouais. Ça sera un jeu multiplateforme. Parce qu'on on associe souvent l'image de Remedy à la Xbox, mais c'est un développeur libre. Donc le prochain projet de Remedy s'appelle Project 7, alias P7.
On avait fait la vanne avec P7, hein, déjà. Le fait que toi, tu étais réformé P3, c'est
oui,
ça?
Oui, je crois que c'est. Ouais, non, c'est... P4, moi. Je visais le P3, mais j'ai eu le P4.
Ah, tu nous avais dit le contraire en podcast. Hein.
Non, c'est des
Tu visais le P4 et t'as eu P3, je crois.
Ah non, non.
Ah ouais?
Ah non, c'est ça le plus beau. C'est que je visais le P3 quand même. Je voulais pas aller trop loin non plus dans le truc. Mais bon. Bref, P7. Voilà.
P7, ça doit être hardcore hein, quand même. Hein.
P7 a un. Ouais, c'est P7, c'est là. je pense. il faut vite. Il faut vite manger des médicaments et tout ça. Ah. Donc, ils ont un éditeur. Aïe, c'est 505 Games, qui est un éditeur italien.
Italien, oui, absolument.
J'ai découvert en faisant la news. Qui a mis 7,75 millions sur la table. 7 patates.
Ah. Mais alors, ça veut dire que le prochain jeu de Remedy ne sera pas indépendant.
Bah,
ça veut dire que
ils
c'est...
ont un éditeur. Mais
ça veut dire que
tu voudrais qu'ils soient indépendants.
Bah, je sais pas, moi, s'ils mettent de la thune, des fois, peut-être qu'ils mettent un peu la pression aussi.
Ouais, bah, bien sûr.
Ils auront des comptes comme tous les des comptes à rendre.
Bah, ouais, mais tu étais censé me rassurer et me dire mais non, t'inquiète pas.
Mais t'inquiète, c'est Remedy, ça va être bien, ça va être intelligent. Bon, donc bref, c'est un nouvel univers inédit hein, pour ceux qui attendaient une suite à Alan Wake, machin, etc. Non, c'est un univers inédit pardon, qui va être fait dans le moteur Northlight, le moteur maison hein, de Remedy. Ouais. Et ça sera un TPS cinématique.
Ce qu'ils ont déjà fait avec Quantum Break.
Ouais, à part ça, on sait pas trop grand chose sur le jeu, donc voilà. Wait and see.
Exactement, wait and see. Alors, l'actu de la semaine, c'est aussi cet internet qui s'est emballé pour
rien. Grosse déception, je suis le premier déçu d'ailleurs, moi qui aime beaucoup Far Cry.
Ouais.
Puisque le Facebook officiel d'Ubisoft France a publié il y a deux jours tout juste une image de Far Cry en expliquant avec la petite phrase une île que l'on n'a jamais vraiment quittée. Et donc évidemment, tout le monde s'est emballé, nous les premiers, bon. Non, pas que nous, mais beaucoup de.
Non, mais tout
presse.
Internet, c'est un.
Toute
c'est emballé.
Presse, hein. Tout Internet. Ah, mais il y a un nouveau Far Cry, peut-être même un remake du 3, de Far Cry 3, etc. Et en
peut-être
fait,
même une préquelle avec Vas Monténégro.
Peut-être même une préquelle avec Vas, le fameux méchant. Mais en fait, pas du tout. Parce que tout de suite, dans la foulée, on les a contactés et Ubisoft nous a confirmé qu'en fait, c'était juste. De la publicité, enfin, comment, d'une présentation
d'art.
C'est un moyen d'entretenir leur communauté en rappelant, voyez,
plusieurs années de travail qu'ils ont effectué sur la licence.
Alors que pour toi, c'était un ascenseur émotionnel. Du
voilà,
coup.
Exactement, ça a été un gros ascenseur émotionnel.
Moi, j'aurais adoré que Michael Mando reprenne le rôle de Vas aussi. Mais bon.
C'est là qu'on voit qu'on est habitué tellement au teasing et trucs comme ça. C'est que la moindre image avec une légende un peu énigmatique.
Dès qu'on voit un truc maintenant.
Tout de suite, on saute à des conclusions.
Moi, au départ, j'ai cru que c'était l'annonce de la PS5, mais après, ça c'est peut-être. Tu vois sur l'image là,
je le vois bien, les requins sur le côté, les trous
dans
les yeux.
Comme je l'expliquais dans la news, il y avait une seule chose qui paraissait
requins à l'image
qui paraissait suspect, c'est le fait que ils mettent en pause Assassin's Creed et pourquoi Far Cry tout d'un coup il ferait un épisode par an, ça serait
Far Cry en plus le 4 non. Ah non, il y a eu Primal l'année dernière. Ouais. Primal, c'était une copie du 4, donc c'était, enfin, la map en tout cas. Donc oui, puis ça pourrait être cette année aussi, on verra.
Les classes visuelles en tout cas.
Et ouais. C'était le bon temps. Après Far Cry, il y a eu aussi des petites infos sur Mario vs Cross Lapin Crétin. Comment on dit
le titre anglais, je crois, c'est Mario plus Rabbids Battle ou un truc dans ce genre-là. Donc c'est un jeu dont on parle depuis octobre dernier. Il me semble, là, c'est encore de nouvelles sources qui ont confirmé
son existence déjà.
Enfin, même si on le savait déjà, mais là, c'est encore d'autres sources qui rajoutent par-dessus.
On le savait, mais moi, je te le dis. Tant que j'ai pas vu,
Bah oui.
J'y crois pas.
Et donc là, c'est Kotaku cette fois qui carrément a reçu des artworks du jeu pour prouver qu'il existe bel et bien.
Ils les ont partagés ?
Non, ils n'ont pas eu l'autorisation. On vous les montre pour prouver que ça existe, mais ne les partagez pas. Et donc, c'est bien un RPG tour par tour qui mélange l'univers de Mario à l'univers des lapins crétins.
C'est vraiment un
ça
RPG,
sera
là.
De la coop à deux en local potentiellement, avec 8 personnages jouables, Mario, Luigi, Peach et Yoshi d'un côté, et de l'autre côté 4 lapins crétins qui sont déguisés en Mario, Peach, Luigi et Yoshi. On parle d'un humour un peu bébête, un peu idiot.
Ouais.
Non, mais ça peut être très bien, potence, parce qu'on sait que Nintendo, dans certains de leurs RPG, quand ils cherchaient à faire de l'humour un peu subtil,
Les Mario et Luigi sur portable sont incroyablement drôle.
Ouais, où tu regardes
et les Mario RPG aussi, ils ont un humour, tu sais, où ils pètent le quatrième mur.
Oui,
tout
voilà,
le temps,
et un humour à double niveau de lecture potentiellement. Ouais. Et ça se ressent aussi même des fois dans les Animal Crossing. Enfin, dès que Nintendo veut faire de l'humour, on sait qu'ils y arrivent bien. Bon là, après, le jeu est développé.
C'est une des annonces de Nintendo qui va avoir lieu, je pense, à l'E3, que j'attends le plus perso.
Je suis très curieux de le voir aussi. Après, il faut savoir que c'est développé par Ubi. Supervisé par Nintendo, enfin ouais,
la supervision de Nintendo, voilà. Ça fait beaucoup de choses.
Mais donc
demande à Rare.
Potentiellement, ça pourrait être très très sympathique. Moi, j'ai hâte d'en apprendre plus à ce sujet en tout cas.
Ah bah c'est le cas pour tout le monde. Autre info cette semaine, c'est Patrice Desilets qui s'est exprimé concernant son départ d'Ubisoft en 2010. Oui, il y a carrément. Bon, Patrice Desilets, de toute façon, c'est pas le genre de mec qui dit. Qui oublie de dire ce qu'il pense. Là, il a dit clairement, je suis parti parce qu'à l'époque, on m'obligeait à faire des mensonges politiques en quelque sorte, parce que à mon poste, j'étais un peu le mec tampon. Voilà, j'étais un peu le mec à qui la direction faisait dire ce qu'il voulait, et en même temps, moi, j'étais que directeur créatif. Et il a expliqué en fait que il s'est surtout rendu compte, et c'est sa compagne qui lui a permis de réaliser ça, que il faisait. Les gens qui étaient au-dessus de lui voulaient juste faire de l'argent et qu'ils en avaient rien à foutre finalement de son statut à lui ou de la façon dont il faisait les jeux. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il était parti.
D'être un pantin un peu.
Voilà, c'est un peu ça. Ouais. C'était un peu ciao pantin pour lui, même si après vous connaissez l'histoire. Il y est revenu malgré lui avec 1666, c'est ça 1666 ? Voilà, et qu'après il s'est fait revirer. Toute une histoire.
Oui, il n'est pas resté longtemps après son retour.
Puis pas dans des bons termes non plus pour le départ. Mais bref, il y a eu aussi Capcom cette semaine. Capcom, qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Ah, ils ont donné des précisions au sujet de Resident Evil 7. C'est curieux parce que ces explications-là.
Tu vas faire un spoil là ? Faut
oui, voilà. C'est bien de le préciser. Si vous n'avez pas terminé Resident Evil 7.
On n'a pas
7,
besoin de le terminer. On spoil si on dit qu'on en a tout le temps.
Ah oui, donc spoil, revenez dans 5 minutes si vous voulez.
Ils expliquent un logo. Voilà.
Alors, là, spoiler time, coupez, revenez dans 10 minutes ou dans 5 minutes.
Oh, peut-être moins que ça. Oh là,
dans 5 minutes, je vais faire vite. Je vais
dans
faire
une minute.
Ouais, une minute. Tu as une minute. Donc, 3, 2, 1.
À la fin de Resident Evil 7, un hélicoptère aide le héros, comme souvent dans les Resident. Et sur cet hélicoptère-là, il y a un logo Umbrella Corporation bleu. On sait que le logo, enfin bleu et blanc, on sait que le logo Umbrella, il est rouge et blanc habituellement. Et donc, Umbrella Corporation qui vient aider le gentil, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Donc là, Capcom au Japon vient de commercialiser une réplique d'un des guns du jeu, plus particulièrement du gun qu'on nous envoie à la fin du jeu pour tuer le boss. Et avec ce produit dérivé, il y avait un petit texte explicatif qui détaille où en est Umbrella désormais. Donc, Umbrella, tel qu'on le connaissait, donc la méchante société qui fait des recherches sur les armes biochimiques, a fait faillite et a été forcée par le gouvernement... Explication abracadabantesque. Forcée par le gouvernement américain à réouvrir avec de nouveaux dirigeants dans le but d'expier ses erreurs passées. Genre une explication bien japonaise dans la façon de faire. Et donc, ces nouveaux dirigeants, nouvelle façon de procéder.
Top, une minute, c'est fini pour
ton explication.
Non, il faut que je termine.
Donc, nouvelle façon de procéder. Et maintenant, cette nouvelle Umbrella collabore par exemple avec le BSAA, qui est l'organisation pour laquelle travaille Chris Redfield. Et donc maintenant c'est une gentille.
Et ça c'est pas un truc qu'ils auraient pu dire dans le jeu par le biais d'un paplard que tu ramasses ou d'un ordinateur.
Mais non, mais surtout que vu comment ça se termine, on laisse le joueur avec plein de questions et on s'était tous fait des films genre ça allait relancer l'intrigue pour les prochains épisodes. En fait, juste non, quoi. C'est juste une des explications toutes bêtes qui aurait dû être donnée.
Dans le jeu. Enfin, voilà, ouais. c'est ça que surtout.
Aucun impact sur l'intrigue, enfin, sur l'intrigue majeure des épisodes à venir.
D'accord. Cette semaine aussi, il y a eu une rumeur, on ne sait pas trop. À savoir que Modern Warfare Remastered, vous savez, qui était vendu avec les versions collector de Infinite Warfare, eh ben, il serait peut-être disponible. Ouais, il y a trop de Warfare en ce moment. Il serait peut-être disponible cet été en standalone pour les gros fans de cet épisode fondateur.
C'est tellement étonnant qu'ils ne le vendent pas à part, mais je pense qu'ils avaient peur de le vendre plus.
Ils avaient peur de
que
pas
le nouveau Call of Duty.
Ils auraient clairement vendu moins d'Infinite Warfare si.
C'est pour ça. Maintenant, ça fait un peu plus d'un an qu'Infinite Warfare est sorti, et c'est peut-être le moment effectivement de ressortir Modern Warfare Remastered. Donc voilà, ça, c'est possible pour cet été, d'après un site qui l'a listé.
En tout cas, si ça se confirme, c'est un nouvel exemple du la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain, parce qu'Activision avait démenti la possibilité de la sortie séparée de Modern Warfare Remastered. Donc si ça sort, ça prouve une nouvelle fois qu'il ne faut pas toujours prendre pour argent comptant ce qu'on nous raconte du côté des éditeurs et des constructeurs.
Voilà, Romain Insoumis, c'était dans ce podcast. Ensuite, il y a ce D-Mec, le D-Mec de Breath of the Wild, là, qui avait l'air super sympa, version NES, dont on avait parlé. Non, c'était bien toi, Angelo. Dont on avait parlé la semaine dernière en news.
Alors d'abord, juste un truc, est-ce que vous avez vu les trois documentaires de Nintendo sur.
Oui, on a fait la news. Quand c'est sorti.
Vous les avez vus, les making of?
Oui.
Extraordinaire.
Bah oui.
Et non, mais c'est là qu'on a découvert effectivement leur propre D-Mec à Nintendo.
Ça c'était à la GDC.
Sans la découvrir à la GDC, ils l'ont fait.
Ah, il avait déjà montré à la GDC. Bah, moi j'ai découvert dans ces making of.
Oui, que le prototype était une version 2D. Oui.
Ouais, mais c'est génial. Et c'est ça qui a donné envie au mec de créer le D-Mec en fait à la base.
Voilà. Et ouais. Mais seulement le problème,
bref,
c'est que
le D-Mec n'existe plus, mes amis. Nintendo a demandé à ce qu'il soit retiré. Et Winter Drake, le créateur du fameux D-Mec, Zelda Breath of the NES, puisque c'est inspiré de l'époque NES, 8 bits. Nintendo lui a demandé le retrait du jeu pour des questions de propriété intellectuelle, c'était assez évident. La bonne nouvelle, c'est qu'il continue à bosser dessus. Et qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir...
C'est lui l'insoumis.
Lui, il est pote avec Jean-Luc et il s'est dit rien à foutre. J'enlève Link, j'enlève Zelda et j'enlève tous les trucs.
Ni Link ni Zelda.
Et il va mettre des nouveaux personnages à la place et poursuivre le développement de ce petit jeu.
Il va faire ça avec les Pokémon cette fois.
Mais c'était évident que Nintendo laisserait pas passer ça.
C'est toujours comme ça de toute façon. C'est malheureusement toujours comme ça. Heureusement, il y a une bonne nouvelle concernant Zelda, en tout cas pour les gens comme moi qui aiment beaucoup les escape games, puisque on vous en avait parlé à la fin d'année 2016 aux États-Unis, il y a une espèce de tournée d'escape room à thème de Zelda qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui, qui va continuer sur toute l'année 2017.
C'est la grosse mode en général de toute façon, les escape games.
Et ça arrive en France. Messieurs, dames, ça va arriver pendant Japan Expo. Alors là, je me demande comment ils vont se démerder pour
ça va être totalement inaccessible.
Ouais, le problème, c'est que c'est dans Japan Expo, donc au niveau du bruit, à mon avis, ça va être insupportable.
La chaleur.
Bref, on leur donne quand même le bénéfice du doute. Mais en tout cas, il arrive durant Japan Expo. Il faudra payer votre billet de Japan Expo pour pouvoir rentrer et essayer de participer à ce Escape Game donc du 6 au 9 juillet prochain. Moi j'ai très envie
d'aller. Ce sera à Cologne pour la Gamescom. Faut
payer ton ticket pour la Japan Expo.
Ah bah t'es obligé.
Et en plus payer un ticket pour
la Gamescom. C'est à l'intérieur. Et à la Gamescom ce sera pareil.
Et tu payes fois deux.
Et faites attention si vous comptez réserver, parce qu'il n'y a que 4 créneaux par jour et c'est sur 3 jours et il va falloir se dépêcher parce que.
C'est genre ultra limité.
C'est 6 joueurs par session maximum, donc forcément ça va être un peu compliqué.
Ok, il y a moins de 100 joueurs qui vont faire le truc pendant le week-end. D'accord.
Normalement. Ça commence le jeudi. Ça commence le jeudi, donc après débrouillez-vous. Voilà. Et ça, c'était la dernière actu qu'on avait envie de traiter dans le reste de l'actu en vrac. Voilà. Messieurs, je vous sens parfaitement en forme pour continuer le podcast. On enchaîne. Non, je plaisante, évidemment. On va s'arrêter ici. C'est ainsi que va l'actu pour cette semaine qui était encore une fois bien chargée. Je ne sais pas ce qu'on va voir la semaine prochaine. Attendez, je réfléchis déjà, on aura après.
Outlast.
Oh, on aura Outlast 2. Oh, ça ne s'arrête plus.
L'actu continue. Oh, l'actu ne s'arrête jamais.
Oh, ça ne s'arrête plus. Et puis il y aura le 3 après. Oh là là.
Attends, si je me trompe pas, niveau date, ça va peut-être être juste pour le podcast de la semaine prochaine. Mais potentiellement, NBA Playground.
Ah oui, il sort le 9,
NBA
c'est vrai.
NBA Playground.
Exactement. Peut-être qu'on va pouvoir enfin. Non, peut-être qu'on y rejouera même en live d'ailleurs.
Ah, je suis partant. Mais pas avec Traz.
Justement. Avec
s'il
Traz.
Est pas dans ton équipe, ça va.
Ouais. Oui,
s'il est dans l'équipe adverse, c'est plutôt une
avec Traz, mais pas dans mon équipe.
Bon. En tout cas, on espère que vous serez dans notre équipe la semaine prochaine pour suivre un nouveau podcast de la rédaction. On va remercier Julo, Camille,
merci,
Romain et Moufi à la Sono.
Beaucoup.
N'oubliez pas, Game Block Cup tous les soirs de 20h à 22h sur Mario
gratuit
Kart.
Gratuit pour les filles, première console gratuite.
Voilà, exactement, avec un autocollant offert par Poufi si vous vous débrouillez bien. Et puis peut-être que vous nous croiserez aussi d'ailleurs au passage.
Sur le parking ouais.
Sur le hein.
Non, rien. Oh. Parce que non, c'était
quoi
la...
Non, mais là, tu commences à faire flipper.
C'était la métaphore qui continuait, boîte de nuit, boîte de nuit machin, etc.
Ça va trop loin.
Ok. Toujours est-il que si vous avez des commentaires à faire sur ce podcast, n'hésitez pas, là, comme d'habitude, juste en dessous. Si vous avez des remarques sur les jeux dont nous avons parlé, sur les thèmes que nous avons abordés, n'hésitez pas une seule seconde. On sera même très content après de venir parler avec vous pour ça et de vous défier à Mario Kart 8, évidemment, bientôt aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien et surtout...
Jouez bien.
Ben on va la refaire parce qu'il n'y a que Romain qui participe là. Il y en a deux, ils sont dissipés, j'ai l'impression. On la refait.
Okay, j'étais en train de dire coucou.
Ouais, tu parles, tu fais rien du tout. Ouais. D'ici là, portez-vous bien et surtout...
Jouez bien.
Jouez bien.
Ah oui, voilà, je voulais faire en dernier. Allez, ciao.
Jouez bien. Jouez bien.